Mercredi, le 9 du 9 du 9, il est 14h, c'est l'heure de l'aérospatiale, l'émission 100% art visuel de CKRL, la radio culturelle à Québec. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue donc à l'aérospatiale, à cette première édition de cette quatrième saison que nous commençons. La voix féminine que vous entendez, c'est celle de Claude Chevalot. Je m'appelle Jean-Pierre Gay. Et nous avons à l'autre bout du Québec, quelque part en Gaspésie, notre ami Richard Sainte-Marie qui est au téléphone. Bonjour, Richard.
Bonjour.
Hey, bonjour, Richard.
Bonjour. Bonjour à tout le monde.
Alors, ça va bien. C'est une quatrième saison qui commence. Pas mal fier. Je suis assez excité.
Oui, oui. Hein?
Ouais.
Une petite puce.
On a des bulles dans l'estomac. Donc, quatrième saison, on va rapidement passer le menu aujourd'hui avant qu'on se parle un peu de notre été. Nous aurons aujourd'hui Martin Dufresne, qui était commissaire du fameux symposium de Baie-Saint-Paul, une exposition qui a marqué, je pense, une étape dans le symposium de Baie-Saint-Paul. Nous recevrons aussi Christian Messier, qui est... éditeur webmestre d'un nouveau site qui s'appelle Punctum et qui est dédié, lui aussi, aux arts visuels. On aura Donald Vézina, qui est coordonnateur de cette belle biennale du lin de Portneuf. Nous recevrons à 3h Lise Bonenfant et Anne-Marie Bouchard de Vidéofemmes, le 25e anniversaire de Vidéofemmes. Elles ont réalisé trois vidéos, mais également une installation assez particulière et très... très poétique et très féminine, si on peut le dire. Nous aurons la première chronique de Julie Gagné. Julie qui va nous parler de deux expositions chez vous, dont une m'a troublé littéralement, celle de Benoît Aquin, mais une autre qui est plus ludique, celle de Gino Quentin. Enfin, un petit clin d'œil à la fin de l'émission à nos amis d'Avatar. Nous aurons Myriam Lambert avec nous pour quelques minutes. De retour donc avec Claude et Richard. Richard, ça va bien? Comment va le petit Victor?
Ah, il va très bien.
Oui?
Oui, ben là, il est hors de danger, mais disons que ça ne s'aggrave pas. Il s'est mordu le genou dans une trampoline. Il faut le faire. Mais le problème, c'est que dans notre bouche, on a plein de bactéries.
Ben
donc,
oui,
il s'est
ben
empoisonné
oui.
lui-même.
Mm-hmm.
Et ça, c'est assez important. Donc, il est à l'hôpital depuis une semaine, mais là... Papy est là aussi pour aider tout le monde.
Ça rassure, ça, des fois.
À nous et tout le monde. Alors, c'est ça. Il est hors de danger, mais disons que...
Est-ce que tu lui racontes des histoires à l'hôpital?
Pardon?
Est-ce que tu lui racontes des histoires à l'hôpital?
Ah oui, puis on fait plein de choses pour passer le temps, parce que c'est long à l'hôpital.
Ah oui.
Ouais.
Richard,
on se relaie donc tout le monde. Tout est parfait.
Parlant de passer le temps, Richard, les gens ont le temps d'ici le mois d'octobre d'aller faire un tour dans les bibliothèques de Québec. Parce que j'ai su qu'il y avait ton livre, le Ménage rouge, qui est en nomination pour un concours.
Bien, absolument. Je suis un des 8, je pense, finalistes. Donc, c'est le prix des abonnés. Il faut être abonné, mais on peut voter pour le livre de son choix. Il faut aller à la bibliothèque. On a des coupons de vote au bureau,
mm-hmm.
à l'accueil, si vous voulez. Donc, on peut voter une seule fois, bien entendu.
Donc, votez pour la bonne personne.
Jean-Pierre, puis Claude, vous allez voter pour moi.
Ben, c'est comme un engagement moral.
Moi, je suis très content de cette nomination-là. C'est vraiment plaisant.
Oui.
D'autant plus que dans les semaines qui viennent, je vais publier une petite nouvelle policière dans la revue Alibi.
Mm-hmm.
Donc, les textes sont corrigés. Tout est prêt. Tout baigne, comme on dit.
Mm-hmm. Mm. Claude, de ton côté, toi aussi, tu as passé un été à faire de l'écrire
oui,
également.
Oui, oui, j'ai passé un été à écrire. J'ai terminé le premier jet de mon roman que j'ai donné à quelques lecteurs extrêmement sévères. Bon, Jean-Pierre faisait partie des lecteurs. Je commence la deuxième mouture et je commence à collaborer aussi à la revue Punctum.
Mmh.
Le premier article qui portait sur Baie-Saint-Paul est en ondes depuis la semaine dernière.
Mmh.
En ligne plutôt qu'en ondes, excusez-moi.
Alors, on n'a pas chômé cet été. Je veux souligner qu'à la mise en onde cette semaine, c'est Raymond Poirier, celui qui anime l'émission du matin à CKRL, qui a accepté à pied levé de remplacer notre ami Jacques Gignac. Jacques, qui a décidé de prendre une session sabbatique, si je peux dire. Uh-huh. Et je l'ai su un petit peu à la dernière minute, ce qui fait que notre ami Raymond a pris à pied levé. J'en profite d'ailleurs pour faire un appel à vous, chers auditeurs et auditrices. Si vous avez le goût de vous joindre à notre équipe pour faire la mise en onde de cette émission, c'est pas un travail très complexe, ça demande juste de l'attention, mais vous avez la chance de faire partie d'une équipe de 9 personnes qui est dédiée aux arts visuels. Donc, gênez-vous pas, appelez-moi ou écrivez-moi, c'est Jean-Pierre Gay, @videotron.ca. On pourra voir comment on pourra collaborer ensemble. Une petite formation vous sera donnée. C'est pas très, très exigeant comme boulot, mais c'est essentiel pour nous parce que ça nous permet de nous concentrer sur les entrevues et non pas être attardé à la technique en même temps. L'équipe aussi, j'en profite pour vous rappeler que notre équipe, je disais qu'elle comportait 9 personnes. Donc, on aura quelqu'un à la mise en onde éventuellement. En plus de Claude, de Richard et de moi, il y a aussi Julie Gagné, dont on aura la première chronique cette semaine. Shaher Mohamed, dont j'oublie toujours le nom, notre chroniqueur j'oublie toujours son lieu d'origine, mais donc
Madagascar.
Non, pas Madagascar, c'est
les îles Comores.
Les Comores. D'ailleurs, il participe aussi à l'émission de Raymond Poirier. Nous aurons également notre chroniqueur Catherine F. Gadouri qui va revenir. Et un nouveau chroniqueur va s'ajouter cette année pour couvrir un domaine qu'on ne traitait pas beaucoup à mon goût ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle le street art, ce que certains appellent le lowbrow, tout ce qui se passe en somme à des endroits comme, par exemple, le Morgan Bridge ou le Cercle. Alors, on a quelqu'un qui s'appelle Pierre Gérard, dit Pierre, P-I-S-H-E-R, Pierre, et qui est un artiste lui-même, mais qui est aussi un fondateur de Morgan Bridge. Donc, il va venir nous parler de ce qui se passe dans cet univers-là, qui est un peu alternatif dans le domaine de l'art actuel, ce qui est quand même paradoxal. François G. Couillard, quant à lui, il va demeurer collaborateur à l'émission, mais nous l'aurons de façon sporadique sur des missions spéciales qu'on va lui confier, parce qu'on sait que François aime les choses un peu marginales, un peu à la rencontre.
Déjantées, osons le dire.
Donc, voilà l'équipe ici. En plus de tout ça, évidemment, il y aura d'autres nouveautés. Par exemple, notre ami Claude Chevalleau, qui va nous réserver chaque semaine son coup de cœur, son coup de boule, son coup de gueule. Ça va dépendre de ses humeurs à chaque semaine. Donc, on va commencer la semaine prochaine, dès 14h30. Claude va nous arriver avec ce qu'il a trimoussé pendant cette semaine-là.
Ben, je peux vous dire tout de suite que ça va être un coup de gueule.
Oui, puis on s'en doute aussi.
On commence
aussi
en beauté.
Ça va commencer. Bon, on va parler du fédéral.
Sur les chapeaux de roue.
Quant à notre ami Richard, qui lui est, je le rappelle, qui est à l'autre bout du fil, à l'autre bout du Québec.
À New Richmond.
Richard, toujours le site Internet.
Oui.
Qui a changé d'extension, comme on dit. Ce n'est plus radiomémoire.com, mais c'est bien radiomémoire.org.
Oui, .org. Depuis cet été, j'ai travaillé là-dessus. J'ai déménagé mes sites, dont celui-là, donc sur un site qui est beaucoup plus rapide,
qui est beaucoup plus volumineux.
Donc, ça veut dire que comme nouveauté, cette année, toutes les émissions qu'on va faire à partir d'aujourd'hui vont être en ligne. Ils vont rester en ligne toute l'année, donc ça va faire au-dessus de 40 émissions, parce qu'on ne faut pas oublier qu'au printemps, on a des émissions spéciales. Donc, hebdomadaires vont être en ligne, vont rester en ligne. En plus, quand on a des invités où il y a une entrevue plus de fond, plus importante, ces entrevues vont être découpées, ils vont être mises par ordre alphabétique avec les autres entrevues qui sont par ordre alphabétique. Et donc, c'est assez important parce que il y a aussi dans le site, c'est un site d'archives radiophoniques. Il y a toutes nos émissions, celles que j'ai faites dans les années antérieures aussi. Mais aussi, j'ai celles de temps en temps, Tania Beaumont m'envoie des entrevues avec des chanteurs. Et je les mets aussi donc dans le site radiomémoire.org. Il y a art visuel, mais il y a aussi art de la scène, il y a littérature, il y a communication. Donc, sous l'onglet art de la scène, vous allez trouver les entrevues que Tania Beaumont me fait parvenir. On va l'alimenter sans arrêt. Donc, ça, c'est une nouveauté. C'est important parce que à date, j'ai été surpris de voir qu'il y a à peu près 200 visiteurs nouveaux par mois. Depuis le début de la fondation du cirque, il y a plus de 8000 personnes qui l'ont visité.
Plus de 200 nouveaux?
Oui, 200 personnes différentes qui viennent. Ben, ça se peut être des personnes qui appellent qui visitent chaque mois, mais 200 visiteurs différents. Et le nombre, ce nombre-là, s'agrandit à chaque mois. Au début, c'était 150, 175. Là, c'est autour de 200 par mois.
Puis il faut savoir.
Naturellement, il y a un grand pourcentage de ces visiteurs qui restent là à peu près 30 secondes. Il y a des Américains, il y a des Chinois, il y en a du Laos, il y en a de Suisse, d'Afrique, de partout. Il y en a qui sont des badauds, qui rentrent, qui font comme nous, qui entrent, qui sortent. Mais il y a à peu près 15 % de ces personnes-là, donc une trentaine de personnes à chaque mois qui restent une heure et plus. Ça veut dire qu'ils écoutent nos émissions, nos entrevues. Et j'ai même reçu très récemment un message d'une personne qui travaille dans une grande institution québécoise, muséale, que je peux pas nommer, mais qui avait écouté une entrevue et qui me demandait des renseignements sur l'artiste. Donc, ces choses-là sont écoutées par tout le monde, y compris les spécialistes, le grand public. Donc, c'est important. Et j'ai vu que certains artistes prennent l'habitude de mettre un lien dans leur site vers le site radiomémoire.org, puisqu'ils ont une entrevue. Et donc, c'est assez intéressant pour eux aussi, en retour. Et au besoin, je le dis tout de suite, si vous... les artistes qui ont été interviewés à notre émission depuis qu'elle existe, ben vous pouvez rentrer en contact avec moi à webmestre@radiomémoire.org ou aller sur le site et communiquer avec moi. Et je peux vous fournir même les statistiques de fréquentation de votre entrevue, puisque... Chaque fois que quelqu'un se branche sur votre entrevue, c'est numéroté, donc c'est additionné. On voit qu'il y a des gens qui sont plus populaires, des gens qu'on visite plus fréquemment.
Donc, alors, Richard,
c'est un lien important.
Merci, Richard, pour cette information. D'ailleurs, on va rappeler l'adresse régulièrement du site Internet.
Oui, comme on fait tout le temps.
Il y a une autre nouveauté, on s'en va bientôt, là, en pause audio. Une autre nouveauté cette année qui est de... À chaque semaine, d'ailleurs, on a eu une belle collaboration d'Avatar, Jocelyn Robert qui m'a demandé si j'avais tous les disques d'Avatar, mais évidemment, je n'avais pas tous les disques d'Avatar.
Il y en a une trentaine.
Donc, Avatar m'a fourni l'ensemble de sa collection, si bien qu'à chaque semaine, je vais pouvoir vous présenter un artiste en art audio. Et je commence cette semaine par Jocelyn Robert. Jocelyn Robert qui produit beaucoup. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai 8 disques de lui. Donc, c'est quelqu'un qui produit depuis la fin des années 90. Alors, la première pièce que nous allons entendre aujourd'hui, elle est justement de Jocelyn Robert. Alors, Richard, on te salue.
Richard.
À la semaine prochaine.
Embrasse Victor pour nous.
Et on commence avec un projet, donc, de Jocelyn Robert, Le Piano Flou. Voici une pièce tirée de ce disque qui s'appelle Flèche Écho. Alors, c'était donc Jocelyn Robert, tiré de Le Piano Flou. Prochaine entrevue qu'on a réalisée, Richard et moi, à Baie-Saint-Paul, avec Martin Dufresne, qui était commissaire de cette dernière exposition qui s'intitulait, Incroyable et merveilleuse, un symposium qui a été d'une très grande cohésion. Mm-hmm. D'ailleurs, Claude, tu l'as écrit sur le site de Pontoum.
Ça a été pour moi un des coups de cœur de l'été difficile. C'est clair, d'ailleurs, quand on lit l'article sur Punctum, je pense que ça apparaît.
Je pense que tu l'as aimé, toi aussi.
J'ai beaucoup aimé, oui.
Alors, voici donc l'entrevue que nous avons réalisée, Richard Sainte-Marie et moi, avec Martin Dufresne, lors du symposium. Martin Dufresne, d'abord, félicitations pour cette magnifique symposium, cette belle tournée du commissaire. Ça a été fort intéressant et fort instructif. Martin, avant de faire cette tournée, tu nous as dit que c'était la première fois comme artiste que tu étais commissaire. Et lors de ton début de tournée, tu disais que les artistes n'ont pas besoin de commissaire pour se faire guider. Et pourtant, tu nous as dit avant la tournée que tu as travaillé pendant tout le mois. Ton rôle, c'était quoi là-dedans?
Le rôle, c'était en fait de faire une collection, de choisir 12 artistes et de choisir des pratiques qui se relancent, qui ont beaucoup de complémentarité ou d'affinité, à la fois dans la recherche plastique et dans les intérêts aussi. Ce que je souhaitais dire par rapport à ils n'ont pas besoin de moi, ils n'ont pas besoin d'autres commissaires pour trouver des idées, pour orienter leur recherche, elle est déjà là. Moi, mon rôle, ça a été vraiment d'identifier au Québec, au Canada et à l'étranger 12 artistes que j'admire et que j'ai vu qui ont une pratique vraiment forte depuis de nombreuses années. Plutôt que de souhaiter présenter le travail d'artistes émergents, j'ai eu pour parti pris de prendre des artistes qui ont déjà sont soit en mi-carrière ou un peu plus d'expérience. Donc, c'est ça. Le travail, c'était de les identifier. Après ça, puisqu'on est dans un symposium, je tenais, comme d'autres commissaires l'ont fait avant moi, de donner d'autres clés, d'autres nourritures au public que le travail d'art visuel uniquement. Donc, le travail aussi consistait à identifier des conférenciers, des théoriciens, théoriciennes, historiennes qui ont pu poursuivre la réflexion, donner d'autres clés, de mettre le travail qui se fait ici avec une autre perspective, d'identifier, de sélectionner des œuvres de cinéma. On avait des soirées cinéma, donc des longs-métrages, des courts-métrages, des œuvres documentaires, de vidéos, qui vont aussi dans le même sens. Toujours dans l'idée de montrer, d'affirmer, de faire voir comment dans la période contemporaine dans laquelle on vit, les artistes sont pas isolés ou sont pas dans une bulle où ils fabulent pas, ou du moins s'ils fabulent, ils fabulent tout comme les philosophes fabulent, tout comme les scientifiques fabulent, tout comme d'autres artistes qui ont d'autres recherches que les arts plastiques, en vidéo, en performance, ont aussi. Donc, c'était ça mon rôle, c'était de créer un beau bouquet de créateurs.
Il me semble que dans ton choix, jamais depuis des années, il y a eu autant de cohésion, autant de parenté, je devrais dire, entre les démarches, entre les imaginaires. Dans la forme, oui, ça change d'un artiste à l'autre, mais il me semble que cette fois-ci, dans Symposium, il y a beaucoup de parenté entre les artistes. Est-ce que c'était prévu ou est-ce que c'est arrivé aussi comme ça par la force du Symposium?
Tout à fait, c'est un parti pris clair que j'avais quand j'ai accepté d'assumer le commissariat. Ce que je souhaitais, c'était peut-être qu'on pourrait dire que ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on s'attend ou ce qu'on connaît d'une exposition. L'idée de la cohérence ou d'un lien très, très fort entre les artistes. Moi, c'est le parti que j'avais. Plutôt que de présenter une diversité très, très large, des pratiques qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, ce que je trouve, je pense que dans le défi de présenter l'art contemporain à un grand public, parce que c'est un événement qui est dans un circuit à la fois touristique, culturel, et bien entendu, il y a les gens du milieu qui viennent, je trouve que le fait de rassembler plusieurs artistes qui, sans ratisser, c'est le même jardin, je voudrais pas réduire ça à ça, mais en quelque chose de très très semblable dans l'esprit, dans l'attitude. Pour moi, c'est un autre coup de pouce que je donne aux visiteurs qui en sont à leur première approche, au premier contact avec l'art contemporain, de voir comment quelque chose qui se passe, quelque chose de clair. Moi aussi, en tant qu'artiste, c'est une chose qui est précieuse, que je veux affirmer, c'est la cohérence et de voir comment la recherche des artistes visuels est une recherche intellectuelle, au même titre, pour le rappeler, que celle que des scientifiques ou des philosophes ou des gens de la littérature ont.
Parlant de littérature, devant l'œuvre de Valérie Blast, tu as eu une expression que j'ai aimée beaucoup, moi, tu as parlé de, je paraphrase un peu parce que j'ai pris des notes rapidement, mais c'est comme si tu disais, en face d'un tableau, on s'attend à être comme devant une phrase, mais on n'est pas devant une phrase, on n'est pas devant une conversation, on est de devant une œuvre visuelle. C'est ça, et ça, ça donne la raison d'être d'un symposium, justement.
Ben oui, tout à fait. Et encore là, moi, un autre souhait, une attente que j'ai de la part du public, c'est de faire confiance à l'écriture des artistes et de se faire confiance aussi parce que on le sait fort bien que très souvent, l'idée qu'on a de l'art contemporain, c'est que c'est hermétique, que c'est fermé, qu'on n'a pas ce qu'il faut si on n'est pas allé à l'université ou qu'on n'étudie pas, qu'on dévore pas des ouvrages sur l'art contemporain, qu'on n'a pas ce qu'il faut pour lire le travail. Moi, je suis vraiment pas du tout de cette école-là. Je sais que les artistes s'adressent aussi au public et que si on s'en donne la peine, si on fait confiance à ses émotions, aussi faire confiance au fait que dans l'écriture, il y a du sens. C'est ce que j'espère que c'est l'expérience que le public a ici. Peut-être une expérience qu'il reconnaît plus volontiers qu'en allant au cinéma ou en lisant un roman, par exemple.
Par rapport justement au public, il y a quelque chose qui m'a frappé dans la plupart des œuvres qui sont ici, c'est l'espèce de questionnement qu'elles nous entraînent à avoir. Dans le sens où on sait pas trop devant quoi nous sommes. Est-ce que on est devant quelque chose qui est une peinture? Est-ce que c'est une sculpture? Est-ce que c'est un homme, une femme? Enfin, bref. Il y a toute cette question de l'indécision qu'on retrouve souvent. Et ça, je trouve que ça fait appel beaucoup au public et à l'intelligence du public aussi.
Ben, à la faculté de juger, en fait, c'est souvent ça que le premier réflexe devant ce qui est devant nous, c'est de vouloir établir, de vouloir circonscrire, de vouloir arrêter le trouble. Hein, très souvent, on le sait, quand juste de pouvoir identifier, s'agit-il d'un homme et d'une femme, ce trouble-là, ça fait partie sans doute de l'esprit humain pour pouvoir se positionner, d'arrêter et de... Moi, c'est encore une émotion très forte et riche que les œuvres peuvent nous permettre de vivre, celle du trouble.
Et du questionnement, je dis ça.
Du questionnement.
L'art pose plus de questions que donne des réponses.
Ben, je le crois et j'en profite fort bien. C'est ce qui me permet d'avancer. Ce serait pas un grand secret de dire que j'ai besoin d'art pour vivre et que je fais tout ce que je peux pour être le plus fréquemment en contact avec et des œuvres de littérature, de cinéma, de performance et des recherches diverses là. Mais oui, c'est d'avoir l'assurance que j'existe. Bon, de revenir à Descartes là, mais juste parce que j'ai besoin de me positionner, j'ai besoin de ce que la publicité, ce que la télévision, le monde du divertissement n'attend plus de moi. La chose se fait toute seule et n'a plus besoin de moi parce que c'est déjà digéré, c'est déjà très, très clair. Les pratiques d'art contemporain sont pas du tout de cet ordre-là.
Tu disais au début de ton exposé, avant la visite, j'ai le droit d'exister et j'ai le droit d'être invraisemblable.
Ben oui, en fait, je citais Oscar Wilde dans ses aphorismes que j'aime bien parce que il est vraiment inconvenant puis irrévérencieux par rapport à des certitudes qu'on peut avoir. J'aime ce côté-là mordant, cynique, qui nous ébranle, qui nous provoque, qui nous oublie justement à penser par nous-mêmes.
En terminant, dernière question. Ici, on a un art figuratif. Et si on était ici il y a 12 ou 15 ans, on aurait été dans l'abstraction la plus totale, dans le même lieu où on est cet après-midi. Mm-hmm. Est-ce que cette nouvelle figuration qu'on a ici, est-ce que le symposium nous montre un peu ce qu'est la nouvelle figuration?
Je suis pas historien de l'art, là, mais sans doute, je suis vraiment tout à fait d'accord avec toi quand je vois le travail qui est ici. Et je sais que il y a plusieurs années, ça aurait été même tabou là, de parler de figuration ou parler de narration, de narrativité dans les œuvres. Moi, j'ai pas eu de jugement comme tel, sinon le fait de les identifier, de les choisir, parce que c'est des pratiques que je vois qui sont exposées dans des galeries, dans des musées, dans les magazines. C'est des pratiques qui me touchent, qui m'ébranlent pour ramener ça à ça et qui, puisqu'elles sont portées, puisqu'elles sont menées de front par plusieurs artistes, plutôt que les discréditer, moi, je veux me demander, mais que se passe-t-il? Pourquoi? Qu'en est-il de ça? Avant d'amorcer ma tournée, j'ai évoqué le travail d'autres artistes qui ne sont plus nos contemporains, mais qui encore ont des œuvres tout à fait pertinentes, fortes.
Tu disais d'ailleurs Goya est contemporain, ça c'est intéressant.
Ben moi, quand je vois, malheureusement, c'est encore des reproductions. J'ai vu une fois une estampe, mais quand je vois les reproductions des œuvres de Goya, particulièrement ses caprices, ses estampes, je trouve que cette finesse-là, cette intelligence-là, puis la liberté dans la représentation et l'humour, bien entendu, la virtuosité dans son dessin, pour moi, je peux la reconnaître dans le travail de Patrick Bernatchez aussi, ou d'autres artistes.
Ça nous parle encore et toujours.
Ben oui. Oui, c'est ça, tout à fait. Ça nous inspire, ça nous parle, ça nous pose encore des questions.
Martin Dufresne, merci pour cet entretien. Merci pour ce beau symposium.
Merci beaucoup pour votre visite.
Alors, deuxième demi-heure de l'aérospatiale, c'est toujours Claude Chevalot, Jean-Pierre Gay et Raymond Poirier à la mise en onde exceptionnellement cette semaine. Claude, Raymond qui est l'animateur du matin. Et pour cette deuxième demi-heure, nous allons commencer à parler en parlant d'un nouveau site Internet dont l'instigateur, l'initiateur, l'idéateur, le webmestre, il est le scripteur en chef. Christian Messier. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Bonjour, Christian.
Christian, qui est aussi un artiste qu'on a vu souvent en performance, mais qui est j'ai connu surtout comme un passionné d'art actuel et qui est un fervent défenseur de l'art actuel. J'imagine que c'est un peu ça qui est à l'origine de ce site Internet-là.
Oui, on pourrait dire ça.
Parce que, Christian, quand on se parle, c'est avec une passion, il y a quelque chose de d'inné en toi, cette défense de l'art actuel, cette défense d'un art qui se veut différent, mais en même temps très ancré dans l'univers, dans la société.
Oui. Donc,
c'est ce qui t'a amené à travailler à ce site Internet.
Ben, c'est une des choses, oui. Aussi, il y a, selon moi, très grand manque, surtout, je dirais, de la presse écrite pour couvrir les arts visuels. La radio fait un meilleur job, mais...
C'est quand même assez particulier que la radio fasse de façon exceptionnelle ici à CKRL, là, où on consacre du temps, mais il y a quand même du temps qui est consacré ailleurs et que les arts visuels, ça se passe à la radio, c'est assez particulier.
Oui, je trouve ce travail-là est très important. Il y a beaucoup de blogs qui écrivent sur l'art. On parlait tantôt de Marc Gauthier.
Qui
semble être quelqu'un de très, très motivé dans le domaine. Et puis, c'est tant mieux, ça prend des choses comme ça. Mais mon initiative, je voulais faire quelque chose qui devienne une référence en art visuel, dans la diffusion. Mm-hmm. Je trouve que l'émission aussi, l'aérospatiale, le fait bien, mais une presse écrite, quelque chose qu'à chaque semaine, ça va être un rendez-vous écrit.
C'est une revue. C'est une revue.
C'est une revue, oui. Donc, je trouve qu'il y avait un manque. Non seulement un manque, mais il y a beaucoup de préjugés qui se sont bâtis sur l'art contemporain au Québec, mais peut-être même à Québec. Bon, on a connu certains journalistes populistes, disons, qui se demandent où va l'argent de leurs taxes, puis qui sont frustrés et qui partagent cette frustration-là de cet argent-là qui va vers les arts visuels. Mais les arts visuels, les artistes, en fait, c'est eux qui font la culture de demain. Mm-hmm. Le meilleur exemple, c'est peut-être Riopel. De son vivant, mm-hmm. Riopel était seulement un alcoolique qui vivait sur son île. Aujourd'hui, c'est un symbole.
Mm-hmm. Bourdieu
aussi.
Qui a changé profondément la société québécoise.
Exactement. Puis sans nécessairement dire des noms, il y a une espèce d'aura québécois dont les arts visuels ont été l'auteur. De dire que cet argent-là sert à rien, qui est envoyé à des gens qui font des choses qui sont pas accessibles, bon, je trouve que c'est faux. Premièrement, l'argent est réinvesti dans toutes sortes de commerces, ce qui mm-hmm. fait qu'il n'est pas perdu. Deuxièmement, les arts visuels sont très accessibles. C'est juste qu'il faut être curieux. Puis c'est juste que c'est pas une culture pop, c'est sûr. On vous tiendra pas la main. Mais de faire le pas d'être curieux envers ces choses-là, donc je trouve que c'est une chose que j'avais envie de partager. Et puis que je trouve importante de faire découvrir.
Puis justement, avec Punctum, c'est, si je comprends bien, ou c'est ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu participer, c'est vraiment de rendre les choses plus accessibles, entre guillemets, mais parler de l'art d'une façon compréhensible et sans nécessairement faire appel à des termes très savants, très techniques, mais avec quand même du contenu, là.
Ben, un bon auteur, selon moi, c'est quelqu'un qui peut parler de façon pointue et très profonde, avec mm-hmm. beaucoup de contenu, mais en étant compréhensible.
Mm-hmm. C'est ça.
Donc, c'est un peu ce que je vise avec ce projet-là.
Je vais prendre l'exemple d'un texte qui est là et auquel est associée une entrevue. Je pense mm-hmm. à celui de Catherine F. Gadouri, qui est ouais. collaboratrice ici, qui a fait un excellent texte qui saisit bien l'univers de Diane Landry. Et Diane Landry, c'est un monument. On parlait de relève tantôt. C'est un monument à Québec.
C'est tout petit, mais c'est un monument.
C'est un monument. Et elle a réussi à parler de cet univers-là sans qu'on se sente perdu. Mm. Et quand j'ai lu son texte, j'ai encore davantage apprécié le travail de Diane Landry.
C'est
un texte qui est sur Punctum, d'ailleurs.
Oui, puis il y a une entrevue audio aussi mm-hmm. qui peut être écoutée.
Le site s'appelle Punctum. Pourquoi?
OK, Punctum, il y a deux définitions. Vous chercherez dans le dictionnaire celle du dictionnaire qui est intéressante, mais qui m'intéresse moins. Celle qui m'intéresse, il faut aller chez Roland Barthes, qui est un auteur français, mm-hmm. qui, en parlant de la photographie, a repéré, disons, deux choses qui agissent en photographie, qui appelle le studium et le punctum. Le studium, c'est en fait c'est l'espèce de thématique où c'est... Venant du regardeur, c'est une thématique qui l'intéresse. Comme par exemple, lui, il parle des photos du Nicaragua, si je me rappelle bien, ou bon, quelqu'un qui aime les chiens. Ça, c'est le studium. Il y a aussi, du point de vue de l'auteur, c'est ce qu'on peut repérer qui est volontaire dans l'image. Le punctum, c'est ce qui sort de nulle part, qui vient nous toucher.
Qui malgré finalement okay, l'auteur, à la limite.
Qui malgré l'auteur, malgré les goûts, c'est cette chose-là qui vient directement nous toucher.
C'est ce qui fait, par exemple, qu'une œuvre va marcher pour celui ou celle qui la regarde.
Exactement.
Donc, c'est cette espèce de chose qu'on n'est jamais capable de définir, mais qui fait que telle œuvre, on parlait de Diane Landry, par exemple. Bon, ben telle œuvre de Diane Landry, là, on regarde ça, puis on se dit, on est comme touché. Ce serait ça, le punctum.
Ben en fait, c'est pas « j'aime les chiens », c'est « ce petit chien-là, il y a quelque chose dans son regard, je sais pas quoi ». Mais évidemment, dans une œuvre, c'est le studium, le punctum, ensemble, qui font qu'il y a quelque chose. Le punctum aussi, c'est paradoxal, mais c'est l'impossibilité de saisir une chose par le langage.
Mm-hmm.
Le langage des mots.
C'est un écrivain qui écrit ça.
C'est exactement. puis c'est un sémiologue.
et c'est pour c'est le titre d'une revue web, mm-hmm. donc où on écrit.
Ouais.
C'est aussi ça.
Peut-être donner la référence dans la Chambre claire,
mm-hmm. Mm-hmm.
qui est un excellent livre, très simple, encore une fois, mais tellement moi c'est la base, c'est une des bases de ma pensée.
Mm-hmm. Punctum, ça fait quelques fois que je t'entends en parler. Puis je pense à ce que tu disais avant des arts visuels. Je me rends compte que le punctum, c'est l'espace libre complètement aussi que du spectateur ou de la personne qui regarde l'œuvre, qui va être touchée par quelque chose qui a été, qui est là malgré l'auteur ou qui n'était pas ouais. conçu pour être là.
C'est vrai que c'est un espace de liberté parce que c'est en fait, c'est la limite du langage. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est pour ça que ce livre-là me touche beaucoup. Roland Barthes, qui était très sémiologue, finalement, puis qui, à un moment donné, s'aperçoit qu'il y a des limites au langage, à mm-hmm. la structure, puis il y a ces choses-là qui viennent le tanner, tu sais, qui sont là. Puis... Donc, oui, c'est un espace de liberté parce que personne peut le nommer, personne peut dire ça, c'est ça. Mm-hmm. Donc, j'aimais bien...
Et ça s'écrit punctum, comme en latin, P-U-N-C-T-U-M.
Oui.
D'ailleurs, sur le site Internet de Radio Mémoire, vous allez avoir cette adresse-là.
Oui. Ben, je peux peut-être vous la donner? Ou...
Ah, oui, donc.
Bon, OK. Donc, c'est punctum, P-U-N-C-T-U-M, trait d'union QC, mm-hmm. pour Québec, .com.
Le QC est important parce que je comprends que le champ d'exploration de cette revue-là, cette revue web-là, c'est la ville de Québec. On parlera oui. pas, il ne sera pas question là-dedans de ce qui se passe à Montréal ou ailleurs.
Ben, peut-être dans 10 ans ou peut-être si des gens m'envoient des textes, pourquoi
aussi,
pas.
Ou si un artiste de Québec est à Montréal, comme on fait ici.
Aussi, peut-être, je suis pas fermé du tout à sortir de la ville. C'est juste que c'est un milieu que je connais bien. Je connais les acteurs. Puis aussi, c'est beaucoup de travail pour... c'est beaucoup de travail. Donc, pour l'instant, je me limitais à Québec. Mais c'est pour toutes ces raisons-là. En fait.
Et on va retrouver sur ce site-là, d'ailleurs, on retrouve actuellement des textes, mais aussi des entrevues audio.
Oui.
On parlait de Catherine-Ève Gadoury et de Diane Landry. Il y a notamment une entrevue. Et il va y avoir aussi du visuel à un moment donné.
Visuel, vidéo, oui, on est en train d'y penser. En fait, c'est pas que c'est compliqué, c'est juste qu'il faut trouver la façon de faire, faut mm-hmm. trouver les gens et puis le matériel. Mm-hmm. Donc, c'est un projet. Évidemment, s'il y a plus d'interactivité, plus de choses qui bougent, des fois, ça peut être agréable. On va voir. Ça va mm-hmm. vraiment dépendre de la pertinence.
Parce que des fois, c'est une chose de faire des entrevues avec une enregistreuse. C'en est une autre de faire un topo avec une caméra. Mm-hmm. Mais si vous voulez voir du visuel, il y a sur le site de Punctum les carnets invisibles de Félix Leblanc qui sont des dessins qui en fait un par semaine. C'est jeudi, je pense.
Oui, c'est jeudi. C'est vrai. J'ai fait une mise à jour, donc.
Donc c'est le jeudi.
Non, en fait, c'est que j'avais une section actualité qui est devenue une section pour les membres de Punctum, mm-hmm. les membres qui sont des diffuseurs. Bon, en ce moment, il y a surtout des centres d'artistes, et puis eux ont une place privilégiée pour annoncer leurs activités. Malheureusement, les carnets invisibles, j'ai dû les transférer dans l'agenda culturel qui est une autre page qui a moins de visibilité, mais donc c'est un peu l'entente.
Mais ils sont là,
début.
Ils sont là quand même.
Ils sont là, oui.
Parce qu'on retrouve aussi sur ce site-là, évidemment, des entrevues avec des artistes, des textes sur des artistes, mais il y a aussi un important calendrier, agenda qui décrit un peu ce qui se passe à Québec.
Ben en fait, c'était une chose. Au début, je voulais qu'il y ait des écrits sur l'art pour que ces écrits-là soient valent quelque chose, que ça soit en profondeur, qu'il y ait une certaine rareté. Mais je me suis dit que j'ai pas envie d'écrire juste pour le petit milieu, mais de grossir aussi, d'aller chercher un autre public. Donc c'est une autre démission de Punctum.
Donc on rappelle l'adresse.
Oui, donc c'est le www.punctum.com. Mais si vous cherchez Punctum, vous allez voir Punctum, Revue des arts visuels.
Puis ça, j'imagine que si quelqu'un va sur Internet, dans Google, par exemple, et il fait arts visuels Québec, il devrait arriver sur Punctum. Est-ce que c'est bien indexé? Parce qu'un nom comme ça, il faut dire que c'est pas facile à retenir.
Il y a beaucoup de punctum. Au début, je suis parti de la 28e page à peu près. Puis là, je suis rendu à la première. Arts visuels aussi. Non, en général, le punctum, Revue des arts visuels, dans la première page, ce qui est très important quand même.
En tout cas, nous, ici, à CKRL, c'est certain qu'on va collaborer avec vous. On a comme une affinité naturelle entre nos deux organisations.
En effet.
Alors, donc, c'est sûr qu'à l'aérospatiale,
on partage des chroniques.
On partage la même passion aussi.
Oui.
Ben, merci beaucoup, Christian Messier.
Ça me fait plaisir.
Et puis, bonne chance à Pointum. On va suivre ça dans les semaines qui viennent.
Merci.
On continue notre présentation avec notre ami Jocelyn Robert. Voici une collaboration qu'il a réalisée avec Daniel Joliffe, qu'on a eu l'occasion de voir notamment au Mois Multi. Voici donc de Jocelyn Robert et Daniel Joliffe, Ground Station. Alors, c'était Daniel Joliffe et Jocelyn Robert, tiré du CD Ground Station, une pièce qui dure 47 minutes.
C'est vraiment beau.
Alors, c'est très beau.
Vraiment
mais
beau.
Jocelyn, il a fait de toutes sortes de choses.
Ouais.
Hein, ça s'avère.
Des trucs très harmonieux, des
d'ailleurs,
trucs
c'est ce qui va être intéressant dans le paysage qu'on va présenter aujourd'hui, de voir comment il a fait des choses très électroniques et d'autres très mélodieuses.
Un son très harmonieux.
Ouais. Alors, au bout du fil, parlant d'industriel et harmonieux, on va aller dans le lin. On s'en va à Portneuf avec Donald Vézina, qui est coordonnateur de la Biennale internationale du lin de Portneuf. Bonjour, Donald.
Bonjour.
Donald, Biennale de Portneuf, vraiment, vous avez pris de l'expansion cette année. Je comprends que le mot Portneuf prend toute sa dimension parce que vous êtes un peu partout dans Portneuf cette année.
Ah oui, on prend des lieux dans de plus en plus, des villages de plus en plus nombreux. En tout, il y a au-delà de 40 créateurs qui exposent dans la région cette année. Hein, ça commence à être assez impressionnant.
Ça grossit d'année en année, mais c'est aux 2 ans.
Aux 2 ans, oui.
Mais parce que si je me rappelle les premières biennales, ça se passait grosso modo à Deschambault, un petit peu au Moulin Marcoux, mais là on n'a pas au Moulin Marcoux, mais au Moulin de.
Oui, au Moulin Marcoux à Pont-Rouge.
Oui, c'est vrai.
Où il y avait des expositions qui étaient plutôt à caractère patrimonial, mais là cette année il y a l'exposition en mode et en design avec une vingtaine de créateurs qui viennent surtout du Québec, mais aussi de France et de Belgique. Là. C'était sous le commissariat de Stéphane Leduc.
Ah oui.
Donc, on est dans un événement qui est à la fois artistique et touristique parce que quelque part, les gens ont l'occasion de parcourir une bonne partie de Portneuf en visitant ces installations-là.
Ah oui, ça ressemble de plus en plus à un circuit artistique là, qui se tient.
Alors donc, ça se passe, il y a 7 lieux, mais chacun a une certaine particularité.
Oui, oui. Naturellement, il y a un événement en art visuel contemporain qui se tient toujours à Deschambault, à l'église et au vieux presbytère. Mm-hmm. Cet événement-là regroupait 10 créateurs. C'était sous le commissariat de Pascal Baudet. Mm-hmm. Et puis, ben là, t'as des bons noms, là, comme Kozik, Emilia Hermann, Clise Nantel, Pierre Bellemare. Mm-hmm. Au vieux presbytère, il y a aussi d'autres œuvres qui sont exposées là dans ce volet en art visuel, dont une artiste finlandaise, Karina Kaikkonen, qui a installé une œuvre assez impressionnante sur le toit du vieux presbytère.
Oui.
Tu as des gens comme Stephen Schofield, Erun Sigurdardottir, j'aime ça de ce nom-là.
C'est bon pour la prononciation.
Caroline Wren, Naomi London et Amélie Brisson-Darvouan, tout, il y a 10 artistes au village. Ça, c'est le volet art visuel contemporain. Il y a un volet...
Donald, ce qui est le lien entre toutes ces pratiques-là, c'est que les artistes sont partis du lin comme matière.
Oui, naturellement, on n'exige pas de tous les artistes qui travaillent avec la matière elle-même. Mm-hmm. Nous, on considère que la biennale, autour du lin, il faut qu'on parle de la matière ou de l'évocation du lin, parce que c'est une tradition millénaire qui réfère à une symbolique très, très large. Hein. On sait, il y a l'exposition momie à Québec actuellement, là où il est question beaucoup du lin. Toutes les momies égyptiennes étaient emballées dans le lin. Les suaires. Tu sais, regarde, il y a une multitude d'évocations possibles de cette matière-là. Alors, on est très ouvert. C'est pour ça qu'il y a des artistes, comme au Moulin de la Chevretière, où c'est plus le volet métier d'art, il y a des artistes qui travaillent avec le verre, avec la céramique, avec d'autres matériaux. La colle chaude, même. Il y a une fille qui a inventé, qui a mis au point un textile qui est fait avec de la colle chaude, mais qui évoque les motifs de dentelle et des motifs de papier peint anciens qui étaient à l'origine composés de lait. Hein?
Alors, c'est très, très, très ouvert.
Je me rappelle à la dernière biennale, il y avait justement au Moulin de la Chevretière une armoire dans laquelle on retrouvait des nappes, si je me rappelle bien.
Des draps.
Et dont un seul était en lin comme tel, et tous les autres étaient fabriqués en céramique, ou je me rappelle plus trop.
Oui, c'était vraiment de la céramique. C'est une céramique qu'on appelle le papier porcelaine.
Oui.
Donc, Jeannine Parent qui avait évoqué des draps de lin anciens qui avaient été fabriqués par trois ou quatre génération de ses ancêtres en Europe, et puis elle avait tous les draps brodés, et puis elle a fait des reproductions de ces draps-là en céramique.
Et l'effet était déroutant. Moi, j'étais convaincu que tout ça était fait de la même matière, et c'était vraiment trompant.
Il y a toujours des bien, bien, belles surprises comme ça. Les artistes, peu importe leur domaine, là, qu'ils soient en art visuel, en métier d'art ou en design cette année, je te dis qu'on a des surprises
Tu parlais d'un volet de design. Ça se passe où, ça?
C'est au Moulin Marcoux cette année. C'est la première fois qu'il y a vraiment une exposition de création au Moulin Marcoux. On a eu la chance là, d'avoir la collaboration de Stéphane Leduc, qui est quelqu'un de connu dans le domaine de la mode.
Ouais.
Et Stéphane a un bon réseau de connaissances dans les designers de la relève. Alors, il est allé chercher plusieurs artisans, artistes français, belges et québécois. Et puis, il a été chercher aussi des collaborations extraordinaires au niveau du montage de l'exposition et tout. Alors, c'est une exposition qui est très, très impressionnante dans le moulin de pierre de Pont-Rouge. C'est un bâtiment ancien, mais là, quand on entre dans le moulin, on oublie complètement la structure ancienne. On arrive dans quelque chose de terriblement contemporain.
Ah, oui.
C'est très fort comme lieu, là.
Dans ce cas-là, est-ce que les créateurs de mode et design ont travaillé avec du lin uniquement?
Oui, la plupart. Par contre, ça, vraiment, on est dans le lin parce que nous, on a encore une collaboration avec la Maison du lin de Paris.
Ah oui.
Et puis, c'est des tissus qu'ils nous avaient fournis gratuitement pour faire des activités comme la biennale, l'activité bénéfice qu'on fait, la croisière sur le fleuve aux deux ans. Là. Et puis, on avait beaucoup de tissus assez étonnants aussi. Là. C'est pas du tout dans les clichés du lin traditionnel beige. Là. On est dans des lins alliés à des matières synthétiques. Esthétique alliée à des métaux. Il y a des tissus lin et cuivre, aluminium. Il y a des traitements, ce qu'on appelle l'ennoblissement des tissus. Donc, des lins qui sont glacés, vernis.
Vraiment party pour les designers de travailler avec
oui,
ça.
Oui, c'était sympathique parce qu'on avait monté un cahier d'échantillons. Karine, la directrice de Biennale, avait travaillé avec Stéphane pour monter un cahier d'échantillons dans lequel les artistes ont fait des choix. Et puis après ça, ben, tout le monde a travaillé. La plupart, c'est des designers de mode, donc ils ont fait des vêtements, mais il y a aussi une designer montréalaise qui s'appelle Punct, qui a fait des chaises. Il y a quelques objets, il y a une coupe de bijoux aussi. C'est large, la notion de design, là aussi, c'est quelque chose qui va se développer. Mais c'est la première fois que le volet mode acquiert ce niveau-là, parce que c'est une pratique qui n'existe pas beaucoup. Hein, des commissaires en mode qui montent une exposition, là, on ouvre la voie à quelque chose d'inconnu, un petit peu nouveau, là, mais les résultats sont probants.
Parle-nous, Donald, des sœurs Couture. Les sœurs Couture ont fait une intervention oui. assez particulière dans le cadre de cet événement-là.
Oui, ça fait partie des autres projets qu'il y a autour de ces trois pôles d'exposition principaux. Il y a le projet des sœurs Couture à Grondines. Les sœurs Couture sont maintenant établies dans la région.
Mm-hmm.
Alors, eux ont soumis un projet à un petit groupe qui s'appelle les Amis du Moulin de Grondines, qui gère le vieux moulin à vin du régime français qui est au bord du fleuve à Grondines.
Mm-hmm.
Et ils ont fait une œuvre extérieure qui épouse la forme du moulin et qui évoque à la fois les voiles du moulin, parce que traditionnellement, les pales d'un moulin à vin étaient faites avec une structure de bois habillée avec du lin. Alors, ils ont fait une structure qui vraiment épouse la forme du moulin. Ça évoque aussi la géographie du lieu, parce que Grondines est un lieu où la grève est constituée de galets.
Mm-hmm.
Alors, il y a des strates là, qui montent sur le moulin. C'est vraiment une très, très belle œuvre. Donc, c'est une œuvre un peu autonome qui n'est pas inclus dans les expositions sous commissariat, mais le comité de direction artistique de la Biennale a accepté le projet des Sœurs Couture. Même chose pour un projet qui implique la participation de la communauté. C'est un programme du gouvernement fédéral au Conseil des arts du Canada. Et on a soumis un projet qui est d'une artiste de la région qui s'appelle Colette Matt,
mm-hmm.
et qui, elle, est installée au lac Sergent, dans le nord du comté de Portneuf.
Oui.
Puis c'est la communauté qui a souligné le 100e anniversaire de fondation du village et de la construction de la chapelle, avec un hommage aux familles souches et tout. Mais Colette a travaillé avec le lin vivant. On a ensemencé une plate-bande de lin au printemps, puis elle a tissé un canot avec le lin vivant et du lin qui était rouide, du lin traité de l'an dernier. Et elle a fait un canot renversé, puis après ça, il y a une flottille de petits bateaux qui ont été réalisés en collaboration avec les gens de la communauté qui flottent sur le lac. C'est très, très poétique et très évocateur. C'est surtout très rassembleur. Ça a impliqué beaucoup de monde. Là.
Ça me fait penser au travail que fait Georgia Volpe avec
oui,
les gens.
Oui, c'est vraiment dans le
qui associe beaucoup de gens à son projet, puis qui fait le canot. D'ailleurs, quand j'ai pensé au canot, quand tu parlais du canot, ça m'a fait penser au canot de Georgia.
Avec des anciennes pancartes électorales.
Oui. Là, le résultat est vraiment pas similaire, mais oui, on comprend qu'il y a des liens dans l'esprit.
Parce que Georgia,
le travail avec la communauté, ben, tu sais, ça collabore, ça aide aussi à ancrer cet événement-là dans mm-hmm. le milieu. On espère qu'il va y avoir des collaborations avec d'autres communautés au fil des ans pour que les gens de tous les villages se sentent concernés par la biennale, puis qu'ils participent, puis qu'ils comprennent aussi la démarche d'un artiste. Ça change complètement le rapport aux choses quand la population a un accès direct au processus, pas juste au résultat.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est aussi tout ce fait où il est possible de parcourir d'un bout à l'autre Portneuf.
Oui.
Tu sais, tu parles du lac Sergent,
ah, oui.
puis Grondines, on est vraiment comme à l'opposé.
Ah oui, puis il y en a une à Saint-Alban aussi,
Saint-Alban,
près de la rivière Sainte-Anne, au site l'ancien barrage hydroélectrique de Saint-Alban. Il y a une des artistes de la Biennale 2007 française, Aude Franjou, qui nous avait donné son œuvre.
Mmh.
Alors, c'est une œuvre extérieure, une grappe de racines de lin qui sont attachées après un arbre. Alors, on a été installé cette œuvre-là dans le site de l'ancien barrage hydroélectrique à Saint-Albert. Toujours dans le même esprit qu'il y a des œuvres qui s'installent un peu partout, des clins d'œil dans le territoire.
Ben, Donald, c'est jusqu'au 27 septembre.
Oui, c'est ouvert encore 7 jours semaine.
7 jours semaine.
9h30 à 5h30 tous les jours.
Et puis,
pour les journées de la culture, ben là, on fait un petit peu particulier. On va organiser des visites guidées des lieux. Ben, c'est moi qui fais office de guide. Au Moulin de la Chevretière le samedi 26 en après-midi et au village, à l'église et au vieux presbytère le dimanche. Là, il y a une visite vraiment guidée à partir de midi à 1h, parce qu'à partir d'une heure, là, il y a d'autres activités qui ont...
De toute façon, Donald, ça va être dans tout ça va se retrouver dans les cahiers des Journées de la Culture.
Absolument.
Et on va le rappeler ici. Ben,
oui.
Merci beaucoup, Donald.
Ben, c'est un plaisir.
Je rappelle qu'il y a un site Internet, www.biennaledulin.ca. Vous pouvez avoir un aperçu de ce qui se passe. Alors, on s'en va en pause audio, toujours avec... Merci, Donald. Toujours avec Jocelyn Robert, c'est tiré de son disque Bingo. Voici Santiago.
Thank you.
Alors, deuxième heure de l'aérospatiale, c'est toujours Jean-Pierre Guitte, Claude Chevalleau et Raymond Poirier à la mise en onde. Nous amorçons cette deuxième heure avec Lise Bonenfant et Anne-Marie Bouchard de Vidéofemme. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vidéofemme, vous avez eu une très bonne idée de faire un projet qui, à la fois, soit de faire des vidéos, ce qui est votre métier, si je peux dire, mais aussi de l'associer à une exposition en art visuel. Comment c'est arrivé ce projet-là, Anne-Marie?
Au départ, on voulait se questionner sur le processus de création au féminin. Alors, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas essayer de s'interroger sur le processus un peu plus large et puis d'essayer de voir dans les arts visuels ou s'associer à des artistes de notre choix pour voir qu'est-ce qui pourrait naître de ces collaborations-là. Mm-hmm. Alors, on a choisi des personnes avec qui on avait des affinités pour construire nos projets.
Parce que vous êtes allée dans différents domaines. Ou, toi, Anne-Marie,
oui,
t'es allée dans
ça.
Du côté de la danse.
C'est ouais. ça. Moi, j'ai choisi quelqu'un, une danseuse dont les enfants vont à la même école que les miens. Donc, je suis allée dans mon cercle proche, mm-hmm. disons. Puis, on est parti de discussions. On voulait faire embarquer le public dans la danse. On disait, ben là, pour faire danser le public, c'est pas évident. Les gens ont une gêne. Fait que c'est là qu'est venue l'idée de l'interaction, là, de filmer la danse. Puis ensuite, d'embarquer les gens dans une bulle intime pour les mm-hmm. faire danser dans la vidéo.
Lise, toi, c'est oui, carrément moi, dans l'art visuel qu'on est allé. Là.
Oui, ben oui. Moi, j'ai choisi Lucienne Cornet, de m'associer à Lucienne Cornet. Et Lucienne, ben, c'est quelqu'un qui habite dans le même quartier que moi, le quartier Montcalm. Puis je la voyais descendre en vélo à 70 ans, à tous les matins, puis remonter la côte le soir. Et puis on se croisait. Puis un jour, elle me dit, Lise, faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. J'ai dit oui. Et quand Vidéofemme a fait une commande d'œuvre, c'est comme ça que ça a commencé. Vidéofemme a fait une commande d'œuvre aux réalisatrices de Vidéofemme, disant vous vous associez à une autre artiste pour faire une monobande et une installation. Alors on est trois personnes. Il y a Catherine aussi Lachance qui a répondu
avec Paul Baillargeon.
Avec Paul Baillargeon. Alors on a l'art visuel avec Anne-Marie. On a la fiction avec Catherine, puis on a le documentaire avec moi. Puis ça s'est fait comme ça automatiquement là. Alors on a commencé le processus de création, de chacune à notre façon, dans une liberté totale. Et c'est comme ça que le projet est venu au monde là. Chacune à notre façon, notre réflexion sur la création féminine, sans nécessairement n'en parler, surtout pas n'en parler, mm-hmm. mais la montrer, qu'on la sente. Alors, c'est ça qui s'est produit.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez, après ça, décidé d'aller plus loin que juste faire une vidéo, parce que les vidéos en soi, ce sont des œuvres d'art. Même si un documentaire, c'est un très beau documentaire, les cadrages là-dedans
sont beau, hein?
Les fenêtres, il y a une multitude de fenêtres. On a l'impression que, je parle du film de Lise, là, on a l'impression que les fenêtres suivent les mains de Lucienne Cornet. Tellement.
Ben, j'ai essayé de créer des tableaux. Je me suis dit, je fais un documentaire sur un artiste, je vais créer des tableaux. Et il y a un moment donné, on est chacun dans notre cadre et je rentre dans son cadre. Mm-hmm. Et c'est le moment, je pense, le plus important à ce moment-là, c'est que là, à un moment donné, les cadres, tu sais, il y en a plus. Là, ça commence à se défaire.
Ça se fusionne.
Ça se fusionne, c'est ça. Et tout le mouvement aussi, parce qu'elle parle que c'est très statique, alors que moi, ça bouge. Fait que là, on part du reculon, parce que moi, ça bouge. Puis, je me suis permis beaucoup de folie, mais il faut dire que j'ai monté avec Yves Doyon, qui est mon monteur, puis on travaille ensemble. Il a très bien compris.
Oui, puis il y a un gros travail de montage.
Puis il y a un gros travail de tournage, parce qu'il a fallu que je tourne avec deux caméras pour mm-hmm. pouvoir faire ce genre de choses. là, il fallait que j'aie plusieurs cadrages à la fois de ce qui se passait là, devant nous. Alors, c'est comme ça que j'ai fait la conception du documentaire.
Anne-Marie, toi, c'est une œuvre d'art. On dirait que c'est une œuvre en art visuel, mais vivante. Ouais. Parce qu'on est dans le domaine de l'onirisme, on décolle, on est dans un autre univers complètement. Puis la musique qui porte ça aussi, là, c'est un travail très pictural que tu as fait.
Oui, c'est ça. Moi, je viens plus du milieu de la vidéo expérimentale. Alors, le travail de l'image, le travail de superposition, de miroir, c'est ce qui porte pour moi la magie du vidéo. Et puis, ce qui a été une magnifique découverte dans notre collaboration, c'est que j'ai demandé à Lynn Goulet de faire la musique. Elle aussi, ses enfants vont à la même école que ceux de Mélanie et moi. Et puis, notre collaboration a été fantastique. On s'est entendu. Elle a traité les sons, la musique de la même façon que moi les images. Mm-hmm. Alors, ça a donné un résultat sonore.
Il y a une espèce d'adéquation entre les deux.
Oui, une symbiose. Elle a embarqué dans le projet de plein pied. Là, c'est quelqu'un qui...
Il y a une rupture à un moment donné. Hein. Tout ça change tout d'un coup. Le boom, ça se coupe. T'as l'impression de tomber dans un autre film.
Oui, mais j'avais construit vraiment tout comme une installation. Au départ, j'avais pas un film monobande. J'avais vraiment une installation avec des étapes que le spectateur devait franchir. Alors, au moment de relier le tout en monobande, c'est là qu'il y a peut-être eu une rupture, parce qu'au fond, c'est la partie interactive qui se trouve à être un peu en contrepoids, oui, là, du reste là, dans la monobande.
Parlez-nous du film de Catherine aussi.
Oui,
parce
Catherine.
Parce que ça, on est dans un...
C'est complètement
toi, c'est poétique,
un autre...
Autant Lynn, c'est du documentaire, mais très, très, très dynamique. Catherine, on est presque statique, son film, avec une comédienne.
Elle, c'est née d'une autre collaboration. Elle a travaillé avec Paul Baillargeon, Catherine comme assistante réalisatrice, je pense. Et puis, de là est né un lien entre les deux. Mmh. Et Catherine a eu envie de demander à Paul, ben, aurais-tu le goût pour un petit projet, là, une courte fiction? Puis, Paul a répondu oui. Puis, effectivement, ce qui l'intéressait là-dedans, c'était de saisir les moments où la comédienne embarque et sort de son personnage. Mmh. Mmh. Les moments où, après le coupé, puis qu'est-ce qui peut se passer, puis avant l'action,
le maquillage,
les inquiétudes
d'une actrice vieillissante, là, c'est ça, ben tu sais, qui change d'âge, là.
Puis l'angoisse quand à un moment donné je veux disparaître, moi je trouve ça fort,
surtout pour les comédiennes, c'est particulièrement
ben oui, je veux disparaître, ou encore quand elle dit une femme est une chaise,
en attente. Ah oui, c'est...
Ah oui, c'est très fort. Le texte est fort.
C'est très beau. Là.
Oui, c'est vraiment. Puis l'installation comme telle, espèce de boîte dans laquelle on regarde aussi, qui fait qu'on est un peu inconfortable, un peu de la façon qu'on se tient là, devant tout ça. Et donc, on devient aussi inconfortable que Paul, finalement, Paul Baillargeon, devant ce qu'elle a à faire. T'sais, il y a comme... Moi, ce que je trouve intéressant dans nos installations, c'est que c'est cohérent.
Avec le propos.
Avec le propos.
Moi, je suis entré là-dedans, puis je confiais ça à Claude avant l'émission. Quand je suis entré dans ce corridor-là, ce petit corridor-là, étroit, t'as pas le choix, et là, tu vas mettre les écouteurs et t'as l'impression de piétiner la comédienne. Moi, j'étais tout croche devant ça.
Oui, on a l'impression aussi. Moi, l'impression que j'avais, c'était comme une espèce de message outre-tombe. Tu sais, c'est quoi cette affaire en bois comme ça, là, tu sais, puis tu regardes, là. C'est bien pensé. Je trouve ça, Paul est magnifique. Oui. Je trouve que le scénario est extrêmement bien construit. Et l'installation est magnifique. C'est sûr, c'est très beau. Je trouvais que les trois installations étaient intéressantes.
Ben, ils sont intéressantes dans la mesure où elles sont très différentes.
C'est ça.
Tu sais, Paul Baillargeon, c'est un milieu qui est très serré, très étroit. Anne-Marie, on entre dans une espèce de cocon habité par la lumière. Et on parlait tantôt de l'interaction. Ben, quand on réalise qu'à un moment donné, que nos mouvements sont projetés sur l'écran, mais au ralenti, c'est d'une poésie terrible.
Ouais. On devient bon danseur juste avec le...
Ce qui est intéressant aussi, c'est cette connexion. Dans ce que j'entends, c'est la connexion entre votre travail, le travail de l'artiste que vous avez choisi. Puis j'écoutais ce que Jean-Pierre disait de l'installation, où est-ce qu'on regarde Paul de haut, tout le malaise justement qu'elle peut qu'elle peut évoquer. On le sent très, très bien aussi. Là. C'est vraiment extrêmement bien réussi.
Ouais, puis nous autres, notre installation, ben là, elle était complètement éclatée. Parce que nous autres, quand on a voulu s'installer, Lucienne et moi, on avait notre petit coin. Mmh. Et là, à un moment donné, on s'est rendu compte que, mais il en restait de l'espace. Puis nous, Catherine a dit, mais prenez l'espace parce qu'on a des murs de pellicule. On a fabriqué des murs de pellicule. Alors là, on a tassé le mur, puis on a ouvert complètement. Et là, on est venu complètement folle. Là, on faisait des folies. Là, on s'est mis à accrocher nos affaires, puis il s'est créé comme une espèce de grande ouverture. Puis là, on l'a construit en même temps que ça se passe, qu'on la montait.
Adapté aussi, vraiment, tous les petits messages.
Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve des sculptures qui font... Donc, et Lucienne, c'est une sculpteure aussi, et qui utilise des matériaux qui sont des matériaux du cinéma, des bobines, de la pellicule, un parapluie. Parapluie qu'on voit dans l'escalier à côté de chez Méduse.
Mais c'est ma signature, ça, le parapluie rouge.
Ah, je savais pas.
J'ai ça presque dans tous mes films. Ah oui, c'est ma signature. Alors, c'est sûr que le parapluie était là, mais on l'a construit au fur et à mesure. Puis, à un moment donné, on s'interrogeait quel matériau. Puis, je disais, mais moi, mon c'est la pellicule. Ça fait 32 ans, j'ai fait 60 films. C'est la pellicule. J'ai commencé avec du film, puis j'ai passé toutes les bandes magnétiques. J'ai passé toutes les sortes de cassettes qu'on peut s'imaginer. Et là, j'arrive, après 32 ans numérique, et je pars qu'après un tournage, j'ai pas de cassette. Il y en a plus. Quand j'arrive en montage, je suis sur un disque dur. Imaginez-vous l'évolution de la pellicule aux bandes magnétiques. Alors, moi, j'ai tout voulu montrer que c'est ça, c'est 32 ans de métier.
Mais 32 ans de métier, puis c'est reconnu. D'ailleurs, le film, il est primé. Il y a pas un prix que tu as reçu dernièrement?
Ben là, j'ai en nomination.
En nomination? Bon.
Lequel?
J'ai en nomination pour le prix Bell du Conseil des arts du Canada. Hmm. Alors, c'est le prix très prestigieux. Ils ont choisi 10 vidéastes à travers le Canada. Et je fais partie de ça. Alors, mon dossier est parti tout à l'heure. Toutes les femmes de Vidéofemmes ont soufflé dans l'enveloppe.
Nos voeux sont derrière Lise. Avec Lise.
Ah, c'est un gros prix. C'est vraiment très intéressant, oui.
Puis, par ailleurs, le film, on va pouvoir le voir au CLAP très bientôt. Oui. Parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que malheureusement, cette installation-là, cette exposition-là est terminée. Mais il reste un catalogue et qui comprend notamment un DVD sur lequel on retrouve ces trois films-là.
C'est ça.
Donc, on peut aller au CLAP bientôt.
Oui. On va aller au CLAP bientôt. C'est du 1er 25 septembre au 1er octobre. C'est à 17h30. En avant-première, c'est le film de Peter Kraus, No Man's Land de Doina Arap. Et moi, je suis en première partie. Patience, soit petit point le temps. Documentaire sur Lucienne Cornet.
On va faire une brève pause audio, justement toujours avec Jocelyn Robert. Voici une collaboration avec Laetitia, son amie. J'ai choisi une collaboration féminine pour saluer ce que vous faites. Alors voici donc avec Laetitia, son amie, tiré du Le Crachauffage. Ça s'appelle... j'ai oublié le titre. J'ai oublié le titre.
Dans la mécanique... des molécules les plus intriquées s'insèrent dans les cases prévues à cet effet au cœur même des méandres du pouvoir. Le sens des aiguilles d'une montre n'a plus rien à voir avec le soleil. Entre les tuiles luisantes et les velours tendus, la tranche de deux choses l'une. On passe bien sûr par les hauts cris. La convulsion est d'abord vocale, avant de mettre en mouvement le cubitus, la giroflée, l'ambidextre, l'hypothèse, jusqu'à secouer les grandes orgues lovées en circonvolutions inférieures et repasser l'énergie ainsi cumulée au mouvement contraire d'autres molécules, plus simples celles-là. Le levier, rien de secret. Et la martingale s'emballe deux pas de plus, et c'est le vide. Avec fracas.
Alors, c'était donc... la pièce s'appelait « Ah ». Je l'avais bien écrite, mais c'est « Ah ». C'est tout petit, hein, sur une ligne. J'ai choisi celle-là parce que c'est Jocelyn Robert qui a écrit ce texte-là. Jocelyn a tous les talents, y compris celui de faire de la musique, de l'art audio. Tout le reste de ce disque, c'est vraiment de l'art audio avec du bidouillage et tout ça. On poursuit cet entretien avec Lise Bonenfant et Anne-Marie Bouchard. Ce projet-là, il est né, tantôt Anne-Marie, tu disais de re-questionner quelque part la place des femmes dans le... Est-ce qu'il y a encore une place pour un organisme comme Vidéofemmes aujourd'hui?
Bien, je crois qu'effectivement, oui. Il est absolument essentiel, même parce que il y a un organisme, justement, on a fait des études là par le biais des réalisatrices équitables, qui dit que il y a pour les montants des subventions accordées en général aux réalisateurs et réalisatrices, c'est 10%, je pense, des montants qui vont aux femmes. Mmh. Alors, on est très, très, très loin d'une semblant de faux, de similiparité ou d'égalité. C'est parce que c'est ça. Alors, ça veut dire qu'encore aujourd'hui, les femmes sont pas réalisatrices, elles ont moins accès au financement, moins accès au... On dépose autant de demandes. Il y a à peu près 45% des demandes qui sont faites par des femmes, mais il y a 15% des budgets qui sont alloués aux projets des femmes. Et les projets de femmes qui sont sélectionnés reçoivent moins de financement que les projets d'hommes. Alors, bon.
Ah oui. Alors, ce qui veut dire que qu'est-ce que vous voyez à la télévision, ce que vous voyez au cinéma québécois, ben c'est une parole d'homme.
C'est une parole d'homme.
Alors, il y a tout un côté qui n'est pas représenté.
Absolument.
On est complètement absente. Alors, quand on voit Borderline gagner, imaginez-vous comment qu'on est contente. Quand on voit La Galère, qui est quand même écrite et réalisée par des femmes, on est très contente. Et c'est vrai que c'est différent. C'est vrai que c'est différent.
Je suis content d'entendre ça parce que j'ai posé la question à Esther Trépanier, qui est directrice générale du Musée national des beaux-arts, lors de l'exposition sur l'art au féminin.
Ouais.
Et je lui demandais, est-ce qu'il y a un art féminin? Est-ce que les femmes ont une pratique différente? Je savais très bien qu'elle allait me dire, non, c'est un sculpteur, ça sculpte, un peintre, ça peint, une cinéaste, ça cinéaste. Est-ce qu'il y a une couleur féminine?
Ah oui, définitivement. On est toujours plus proche de notre sujet. Tu sais, on est à la loupe, hein? Je veux dire, il y a une quête d'identité, il y a une quête d'intimité. Et je pense que c'est là qu'est notre grosse différence. Et veux pas. Je veux dire, quand on parle, par exemple, comme je pense à La Galère, comme ça, là, mais tu sais, tout le côté de la maternité, les enfants, toutes les femmes. Et je veux dire, il y a pas personne qui peut toucher à ça aussi près qu'on peut le toucher, là, en quelque part. Moi, je veux dire, ça fait 32 ans que je fais des films. Et que j'ai vu des festivals, je suis allée dans des festivals de femmes et tout ça. Puis tu sais, c'est quand même c'est pas évident, c'est pas gros puis tout ça, mais les femmes, juste parce qu'on est capable de se toucher, qu'on est capable de se prendre le bras, de se prendre par le cou puis de serrer d'un bras, déjà là ça crée toute une autre dynamique entre nous. Tu sais, quand on à Vidéofemmes, par exemple, s'il y a une fille qui présente un projet au Conseil des arts, puis arrive à Vidéofemmes, puis elle l'a pas eu, là, puis elle pleure, on est tout autour d'elle à lui donner un petit café ou on va aller acheter une palette de chocolat.
Le droit de pleurer.
Le droit de pleurer ou... C'est sûr, il y a quelque chose.
Parce qu'un film comme celui que tu as fait avec Lucienne Cornet, un gars n'aurait jamais pu faire un film comme ça. C'est avoir cette proximité, cette intimité qu'il y avait entre vous deux, cette complicité-là. Un gars aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à parvenir à ça.
Oui, puis de se mettre en avant, tu sais, comme réalisatrice, d'aller en avant, puis d'aller dans ces lieux-là, devant la caméra. C'est quand on se met à parler de nos corps, là, puis...
Oui, on parle de nos fesses et tout ça.
On parle de comment on se sent, parce que c'est sûr que moi, j'ai voulu... C'est une rencontre de deux femmes, une de 60, une de 70, dans la durée. Puis c'est physique, notre travail. Alors, c'est sûr qu'il fallait qu'on en parle de
puis
ça.
Puis je pense que pour les femmes, il y a aussi l'importance du regard sur le corps de la femme, qui est probablement encore très différent. Mais moi, j'aimerais ça vous amener sur un terrain peut-être un peu plus large quand on parle de création au féminin. Je lisais ce que Geneviève Allard a dit quand on pose la question, c'est toujours pertinent. On passe à autre chose. On n'est plus nécessairement dans la dénonciation. On est dans la, elle dit pas on est dans l'affirmation, c'est moi qui l'interprète de cette façon-là. J'aimerais ça que vous puissiez me parler de, je sais pas toi Anne-Marie, si tu l'as vécu beaucoup, probablement, le mode dénonciation au mode affirmation. Comment vous le vivez puis comment vous le percevez? Parce que moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est vidéo femme, la question, on pose même pas la question. Ça a besoin d'être là. C'est là.
C'est là, on
existe. C'est là. C'est l'affirmation.
Maintenant, oui. Aussi, ouais. L'idée m'a presque fui, mais c'était, on est aussi dans la définition. On existe, on n'a pas juste besoin de dénoncer. Maintenant, on se définit, on essaie de mettre des mots puis de dire, OK, on crée de cette façon-là parce que on a accès peut-être à peu de moyens, donc on crée nécessairement plus artisanal souvent. On va voir vers les gens qui, de notre entourage. C'est comme plus dans le processus que ça se répercute souvent, ça.
Puis il faut dire que moi, j'étais là au début de la création de Vidéofemmes, et puis on était des femmes parce qu'on voulait faire des films. Mm-hmm. C'est ça. Voulait faire des films. C'est pas tellement qu'on était féministes ou qu'on voulait parler des femmes ou n'importe quoi. On était une gang de filles, puis on voulait faire des films. Mais la conjoncture a fait à cette époque-là, bon, les 1975, l'année internationale des femmes, les gens nous appelaient, puis on n'a pas fait que des films sur les femmes.
Ben non.
Entre-temps, on a fait un paquet de choses. Et là, ben, Vidéofemmes évolue parce qu'il faut penser que Vidéofemmes, le centre d'artistes, mais il y a Vidéofemmes Inc. Et là, dans Vidéofemmes Inc.
Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux?
Ben, c'est parce que le centre d'artistes, c'est à but non lucratif. Mm-hmm. Et Vidéofemmes Inc., c'est à but lucratif.
Inc.
Oui, mais ça fait quoi?
Ça fait, c'est que
Dans
les faits, c'est que, par exemple, si un télédiffuseur est impliqué dans la fabrication d'un film, c'est qu'on a le droit au crédit d'impôt, on a le droit à toutes sortes de choses. Et le Inc. nous permet de verser dans le centre d'artistes.
c'est un moyen.
C'est la vache à lait.
C'est la vache à lait.
Ben, c'est un moyen.
Alors, il y a des grosses choses qui se font aussi. Il y a des films à gros budget.
C'est un moyen d'accéder à du financement plus important. Le Inc. permettait de faire des documentaires de plus longue portée, avec des budgets en conséquence, avec plus de recherches et d'aller à la télévision être diffusé.
Oui, puis c'est ça. C'est un processus très long.
C'est né de filles qui faisaient le métier depuis plusieurs années, qui passaient de la relève au milieu, tu sais, mi-carrière.
De la relève à la carrière.
De la relève à la carrière, enfin.
Bon, en fait, j'écoute Lise, puis j'aimerais ça souligner ce que tu as dit. Les femmes... Les féministes ne font pas que des films sur les femmes ou sur des sujets de femmes, pas plus que les artistes féminines en art visuel ou en danse. Non, mais c'est important parce que je pense que la question, est-ce qu'un centre comme ça est toujours pertinent, il y a ça en arrière, tu sais. Mm-hmm. Il y a les gens qui se questionnent sur, oui, mais là, pourquoi des femmes qui font faire des films sur des affaires de femmes?
Mais c'est pas juste,
c'est beaucoup plus large.
Non, mais
c'est très, très...
Je me fais l'avocat du diable.
Mais de toute façon, je veux dire, moi, personnellement, je gagne ma vie comme réalisatrice. Alors, moi, j'ai travaillé pour la Semaine verte, j'ai travaillé pour Télé-Québec, je fais des commandes, je suis réalisatrice coordonnatrice sur des séries, parce que je gagne ma vie en faisant ce métier-là. C'est pas Vidéofemmes qui me fait vivre, là.
On s'entend
là-dessus, là. Mais Vidéofemmes me donne un lieu où je me sens pas toute seule, où je peux aller là, puis là, il y a d'autres réalisatrices, on jase entre nous. Tu sais, c'est ça que c'est, Vidéofemmes. C'est un lieu aussi où on se rencontre, où on réfléchit, où on se pose des questions.
Bien, c'est ça que je comprends, c'est que c'est un collectif, c'est comme un centre...
C'est un centre d'artistes.
Donc, c'est un forum aussi pour vous, que vous avez l'occasion de parler de vos pratiques, de vos métiers, de vos misères.
Oui, puis de nos bonheurs.
De vos bonheurs, comme celui d'être en nomination.
Là aussi, exactement.
Bravo!
Là, aujourd'hui, c'est ça, tout le monde a soufflé dans l'enveloppe en espérant. Puis là, j'ai dit, si je gagne, je vous invite tout le monde au restaurant. Puis là, je vous arrive avec un menu effrayant. Puis j'ai dit, si je perds, on s'en va tous manger un hot dog. Puis on mange pareil ensemble, mais on va manger un hot dog.
Donc, mis à part le film de Lise qu'on va pouvoir voir au CLAP très bientôt, il reste le catalogue. Un catalogue avec un très bon texte de Geneviève Allard, qui devait être ici. Et Catherine, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui aussi. Donc, ce catalogue-là, il est à tirage limité. Il y a 75 éditions.
Oui.
Il comprend, évidemment, le DVD qui reprend chacun de vos films. Il est disponible où? Chez Vidéofemme?
Chez Vidéofemme. Puis je voulais peut-être mentionner aussi que pour les Journées de la culture, il va y avoir un 5 à 7 où on présente des extraits de ces trois installations. Il va avoir la partie interactive de la mienne le vendredi. Il va avoir aussi le même soir dans le 5 à 7 la monobande de Catherine et la monobande de Lise et peut-être une ou deux sculptures de Lucienne.
Oui,
hein,
oui,
qui vont être installées à Vidéofemme sur la rue Saint-Vallier. 291
291
Saint-Vallier, il me semble. En tout cas, à Vidéofemme.
Tapez Journée de la culture sur Internet, vous allez voir.
C'est ça.
Ben, Anne-Marie, Élise, merci beaucoup d'être passée ici.
Merci
pour ce très beau projet et bonne chance pour le. C'est quand qu'on va savoir si. Laquelle des Canadiennes qui a gagné?
Dans le mois des morts, au mois de novembre.
Ben, ça ferait de la couleur dans le mois de novembre.
C'est ça.
Ben, merci beaucoup d'être passé à cette émission. C'est très intéressant. C'était un beau projet. Puis j'encourage, si vous avez raté l'exposition, c'est 291 Saint-Vallier, que notre ami Raymond vient de nous préciser. Donc, vous pouvez vous rattraper en achetant le catalogue chez Vidéofemme.
Oui, puis en venant là, pour les Journées de la culture. Ouais. Et je voulais vous dire aussi qu'on a déposé un projet pour au Conseil des arts du Canada pour que cette exposition-là soit montée ailleurs. Alors, ça se peut qu'on aille à Montréal, qu'on aille ailleurs. On espère qu'on
va
se
promener. Encore là, croise nos doigts.
On se croise les doigts parce que c'est vraiment une exposition qui mérite le détour. Autant les vidéos sont intéressantes, autant le côté installatif a été... Moi, je vous dis, j'ai apprécié notamment... Cette espèce de couloir où on piétinait les femmes, c'était
comme un...
J'étais pas capable. Ben, merci beaucoup encore.
Merci.
Alors, on s'en va en pause audio avec toujours Jocelyn Robert et Fabrice Montal, cette fois-ci, tiré d'un disque qui s'appelle El Tractor. Voici Saints superposés. C'est toute une série de saints, un texte qui date de 1845, qui s'appelle Les Curiosités, où il est question des saints de cette planète.
Saint-Ignace.
Saint-Ignace.
Ignace.
Mangé par les lions.
Mangé par les lions.
Trois corps. Six têtes.
Trois corps.
Six têtes.
Sept bras et sept jambes.
Wow.
Isaïe le prophète.
Isaïe le prophète.
Trois corps.
Saint-Isidore.
Quatre corps.
Saint-Isidore de Séville.
Trois corps.
Sept têtes.
Saint-Jacques-le-Mineur.
Alors, dernière demi-heure de l'aérospatiale, toujours Claude Chevalot, Raymond Poirier à la mise en onde et Jean-Pierre Gay avec vous. Et Julie Gagné qui arrive aujourd'hui pour sa première chronique. Bonjour Julie.
Bonjour à vous.
Julie, je t'ai demandé d'aller voir deux expositions, dont un artiste que tu connaissais qui était Gino Quentin,
oui.
Mais aussi Benoît Aquin, qui tous deux exposent chez Vue. Et c'est jusqu'à ma connaissance.
Jusqu'au 4 octobre.
Alors,
deux expositions, ma foi, fort différentes. Mm-hmm. En fait, ils ont à la limite rien à voir ensemble, mais comme c'est vraiment dans deux salles d'exposition différentes, ben on a quand même le temps d'avoir une petite transition entre les deux.
Je pense qu'elle est nécessaire, en tout cas.
Oui, effectivement, parce que le propos est vraiment fort différent dans les deux expositions.
On n'est pas dans le même univers, absolument.
Non, pas du tout. En fait, avec Benoît Aquin, le Dust Bowl chinois, c'est une série photo qu'il a réalisée au cours d'un séjour en Chine. Il accompagnait un journaliste qui faisait un reportage sur le Dust Bowl chinois. Qu'est-ce que c'est? C'est une catastrophe écologique, en fait, qui résulte d'un excès de... Voyons comment on dit ça.
C'est la désertification.
Oui, la désertification.
C'est la surutilisation de la forêt.
Oui, exactement. Voilà, merci. Donc, des territoires qui ont été trop exploités et qui sont maintenant hostiles, qui sont inhabitables.
C'est le résultat de la coupable, hein, finalement.
Exactement. Et ça crée des tempêtes de sable. Et le tout force les gens, finalement, qui habitaient ces régions-là à déménager.
Mm-hmm.
Donc, ça délocalise les populations. Et la première chose qui frappe, bon, on parle de désertification, mais c'est effectivement l'aspect désertique
mm-hmm.
qu'on va ressentir
couleur,
à travers les photos. Exactement. Premièrement, les tons de beige.
Mm.
Dans toutes les photos, il y a du beige. Dans toutes les photos où on sent qu'il y a une genre de brume de sable ou quelque chose dans le genre. Et tous les endroits aussi semblent complètement vides.
Mm-hmm.
Complètement vides, même s'il y a présence d'humains, même s'il y a un coin de rue ou s'il y a des traces d'humains, exactement.
Il y a une de ces photos-là, par exemple, qui est inhabitée, là, une immense place publique inhabitée.
Oui, oui.
Et il y a les lampadaires, ce sont ils reprennent un peu la cette espèce de molécule d'ADN.
Ouais.
Et là, on est donc la molécule de vie. Et là, on est dans un lieu où il y a zéro vie.
Zéro vie, en fait. Moi, celle-là, elle m'a vraiment marquée parce que c'est une place, c'est un parc ou quelque chose dans le genre. C'est complètement vide, c'est uniquement bétonné ou pavé, mm-hmm. avec des aménagements qui semblent malgré tout ultra modernes. Mm-hmm. Et qui sont finalement hors d'un lieu, hors du temps, qui sont figés. On dirait qu'ils vendent pas. On dirait qu'il n'y a pas d'oxygène à cet endroit-là. Ça fait mal.
Ah oui,
ça fait vraiment mal de voir ça, en fait. Puis la désertification, si je continue aussi, en fait, l'aspect désertique des photos s'explique aussi par les plans qu'il a choisis, par les compositions aussi, des plans qui sont très près du sol, où le sol est vraiment en premier plan et a beaucoup d'importance dans la photo. On va se situer au coin d'une rue qui mène nulle part, avec des gens qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? On dirait qu'ils attendent l'autobus, mais il n'y a aucun signe qu'une voiture va passer.
Puis il y a une grosse sculpture de Gengis Khan en arrière.
Grosse sculpture de Gengis Khan en arrière, derrière un brouillard de sable. Et là, on a une impression de mélange des époques complètement. C'est comme le passé glorieux versus le présent misérable. Mm, mm. Ça fait vraiment de la peine. Et tantôt, quand je parlais que les lieux semblent déserts, malgré la présence humaine, en fait, je te dirais que c'est parce qu'on sent que la présence humaine, là, n'est pas naturelle. Les personnages sont complètement déplacés dans l'environnement. On croirait que c'est des mises en scène,
mais ça n'en est pas.
Ça n'en est pas. J'ai bien demandé, quand je suis allée à la galerie, ça a été une des premières questions, est-ce que c'est des mises en scène? Si oui, ça aurait pu être intéressant, ça sert le propos de l'artiste, mais dans ce cas-là, ça n'en est pas. Ce qui fait que ça ajoute encore à l'incongruité des personnages à ces endroits-là. C'est des gens qu'on ne s'attend pas à voir là. Par exemple, il y a une photo où il y a un camion, des gens s'affairent à pelleter de la terre. Il y en a qui les regardent, mais qu'est-ce qu'ils font?
Le feu est pris. Le feu est pris dans le camion.
Ah, c'est ça. Oui, ben j'ai vu un feu, mais là, je me demandais qu'est-ce qui se passe.
Les gosses, ils n'ont pas d'eau, donc ils sont obligés de pelleter du sable sur le feu pour tenter d'éteindre le feu.
Mais une petite catastrophe humaine, vois-tu? Ouais.
Ce qui est drôle aussi dans cette photo-là, c'est l'espèce de personnage qui est au pied d'une espèce de petite colline où le camion est en train de flamber. Et lui, là, il regarde ça un peu, une mine un peu patibulaire. Il a l'air à vraiment se foutre.
Il passait là par hasard.
Moi. Ouais. Plutôt que d'aller donner un coup de main, le feu est pris.
Mais sinon, il y a une autre photo où là, vraiment, j'ai été profondément marquée. C'est la photo qui s'appelle la motocyclette. Et c'est un motocycliste qui est masqué, qui semble être soit près d'un feu ou dans une tempête de sable. On dirait une figurine.
Oui.
On dirait pas une vraie personne. C'est un homme anonyme qui est complètement sans identité, qui, comme je le disais, ressemble plus à une figurine qu'à un être humain, réellement. Et ça crée un trouble, ce regard-là sur les gens qui laisse à penser que la désertification, c'est aussi celle des humains. Une désertification qui est aussi émotionnelle, comme si, en Chine, un humain unique, donc l'individu, était négligeable dans la masse des Chinois. Il n'y a rien comparé à l'ensemble de la population. Donc, c'est vraiment des personnages qui sont troublants parce que, malgré l'absence de mise en scène, ils sont figés dans le temps, dans l'espace. Et deux, ils nous apparaissent vraiment comme déshumanisés. Complètement.
Et moi, ça m'a rappelé, j'en parlais avec Claude avant l'émission. Moi, je viens de Shawinigan, une ville industrielle, donc qui est née au tournant du 19e, du 20e siècle, et qui a connu son apogée dans les années 50, et qui a vécu la surindustrialisation, l'utilisation humaine au maximum. Et là, ce genre de phénomène-là, c'est ce qui se passe actuellement en Chine. C'est le pays le plus en développement qu'il n'y a pas et qui se fout un peu de l'environnement. Il utilise toutes ses ressources pour...
Ben oui, puis ces ressources-là sont humaines aussi.
C'est le capitalisme à outrance, ben oui.
C'est ça, les ressources sont humaines. Fait que finalement, l'humain, dans ces photos-là, est une trace éphémère. Une trace éphémère qui habite un lieu où l'ambiance, elle est troublante. Des lieux qui n'ont rien de naturel, qui sont figés, comme je le disais, hors du temps, hors d'un lieu. Ça pourrait être n'importe où. Ça pourrait être ici, au Québec. Puis, où on sent que, on sent que ces lieux-là sont inhumains et que cette inhumanité-là résulte, paradoxalement, de l'intervention humaine. Donc, c'est vraiment une exposition qui est touchante, tu sais, qui a un propos quand même, environnementaliste, tout ça, mais qui n'est pas alarmant, qui n'est pas tape à l'œil. C'est pas un enfant avec une mouche dans l'œil, par exemple. Donc, la force de l'exposition, c'est qu'il réside, ça réside, en fait, son regard réside juste à côté.
Ouais.
La catastrophe.
En fait, c'est comme un état de fait. sans nécessairement ajouter au pathos ou prendre position.
C'est un état de fait. On ne sent pas que c'est un art qui est engagé, qui veut faire bouger les gens. Ou qui juge. Non, on se sent juste complètement concerné et absorbé dans ces photos-là.
Pourtant, Benoît Aquin se définit, moi je lui ai parlé à Benoît, puis se définit comme quelqu'un qui fait de la photographie engagée. Mais c'est, effectivement, c'est il laisse au regardant, comme on dit, le choix de définir le propos. Mais dans le fond, il présente tout ce
mais
qu'il faut.
Mais ces sujets sont très engagés, effectivement. Oui. Puis je pense que c'est une façon d'être engagé qu'on connaît moins.
Oui.
Puisque souvent, les gens vont adhérer à des causes, mais tout souligner au gros crayon.
C'est ça. Alors,
c'est pas gros compris, là.
C'est empreint comme... de subtilité et oui. d'une poésie ça. Aussi. Donc, c'est pas juste un propos, c'est de l'art.
Exact. D'ailleurs, il a gagné un prix en 2008 pour cette exposition-là, qui est le prix Pictet, et ce qui fait qu'elle est appelée à circuler beaucoup, beaucoup, cette exposition-là.
Bien, tant mieux, je lui souhaite une bonne route.
Passons maintenant, on va passer par le ça, entre les deux, c'est-à-dire le lieu de transmission.
Oui,
le vrai, pour décompression, on va aller voir Gino Quentin.
Oui, Gino Quentin, en fait...
Avec un G, Gino avec un
oui,
G.
Oui, Gino. Avec l'exposition, en fait, Les manipulations. Bon, Gino Quentin, on connaît beaucoup son travail sculptural, mm-hmm. ses assemblages, en fait, sculpturaux à partir d'éléments usuels, quotidiens, desquels vont résulter, une poésie ou une certaine forme de ludisme. Mais en ce moment, Gino Quentin, je suis allée consulter son site Internet pour bien me situer, mm-hmm. parce que si on pense à ce qu'on avait vu à la Manif d'Or...
Oui,
ou
cette espèce de fauteuil qui se transformait en télévision.
En télévision, exactement. Je me disais, où est-ce qu'on se situe? Dans le fond, en ce moment, Gino Quentin travaille sur des sculptures. Mm. Des sculptures portatives.
Des petites sculptures. Mm-hmm.
Des petites sculptures mm-hmm. portatives que l'on porte comme un fardeau, comme un bijou, ou encore qui nous porte. Là, j'ai vu des photos des souliers, en fait, qui se transforment en grosses, grosses sculptures. L'humain doit être à peu près à 10 pieds dans les airs ou quelque chose comme ça. Et là, ce que Gino Quentin nous propose à vue, ce sont des manipulations de ces sculptures portatives mm-hmm. qui sont photographiées à l'aide d'un numériseur dans la progression du mouvement de l'objet. Donc, on va voir l'artiste qui manipule mm-hmm. l'œuvre, mais dans le temps.
OK. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'au-dessus d'un numériseur, hein, il passait son œuvre en la faisant bouger. Et ce que le numériseur prenait, c'est dans le fond, c'est le mouvement qu'il créait.
Le mouvement, exactement. Et l'évolution, finalement, de l'œuvre dans le mouvement, ça va donner des photos qui sont vraiment intéressantes, mais surtout... Je trouve que les sculptures, les œuvres sont modifiées.
Mais oui, c'est...
Parce que là, par la trace du mouvement, ça va changer la forme de la sculpture. Parfois, ça va résulter aussi en un dédoublement.
Ça devient comme une autre œuvre.
Bien, ça devient une autre œuvre, exactement. La nature de l'œuvre va opérer un glissement nécessairement dans cette exposition-là. De base, la sculpture devient photo.
Mmh. C'est ça que j'allais dire, parce que c'est le mouvement, mais c'est aussi le fait d'avoir capté le mouvement
mais oui.
sur d'une façon statique. Mmh.
Puis l'œuvre, dans le fond, va créer une autre œuvre qui va redéfinir la première aussi. Chaque photo est la trace et la conséquence du mouvement et d'un instant présent, finalement. C'est la trace de la manipulation, c'est l'œuvre qui se déploie en plusieurs étapes, au bout du compte.
Et il a fait plusieurs manipulations.
Oui.
Parce que lorsqu'on va dans la salle, à l'entrée de la salle, il y a une feuille qui nomme ses œuvres. Ça s'appelle Manipulation 95, Manipulation 47. Ça veut dire que pour la même photo, il a pris 45 ou 95 essais.
Oui, effectivement. Puis les photos, en fait, qu'il a choisies sont vraiment... très bonne. Moi, j'aime beaucoup, en fait, le fait que l'objet, bon, je le disais, se transforme. Par exemple, une matière qui est dure, qui est lisse, va sembler tendre, va sembler molle, va sembler plus douce. Il y a une sensualité aussi qui se dégage de ce travail-là. Je trouve une sensualité dans le contact de l'artiste avec son œuvre, tu sais, avec les gants qu'il utilise aussi, qui sont tous différents.
Ces gants sont très beaux. Moi ceux qui sont picotés, là, j'ai jamais vu ça chez Kanak Marquis.
Ces gants picotés-là, c'est ça, c'est des gants anti-adhésifs.
Ah oui.
Tu sais, pour pas que l'objet tombe ou il y a des gros gants de vaisselle rouges, luisants comme en caoutchouc, mais ça ajoute.
Oui.
À l'œuvre et ses mains, on dirait qu'elles en viennent à faire partie de l'œuvre aussi.
Effectivement.
Ça ressemble à quelque chose de sous-marin, les gants rouges avec le...
Ouais, puis il y a un petit côté 70s, moi, je trouve, ouais. Là, à travers cette photo-là, surtout avec la sculpture. Mais ça dégage aussi une belle poésie. C'est un travail qui est vraiment vivant tout en étant contemplatif, à mon avis.
Puis, je sais pas si... Moi, j'ai porté attention à l'installation, à l'accrochage, comme on dit. Et il y a comme tout un continuum assez particulier. On commence par voir deux photos qui sont à la verticale. Puis là, on tourne le coin, puis là, on se retrouve avec des photos en forme paysage, et on tombe avec cette espèce de grosse photo à deux yeux. On a l'impression de tomber sur une bébête.
Celle avec les quatre mains,
Ouais. Et on continue, et ça finit à la fin par la dernière, sur le dernier mur, où on voit pour la première fois celui qui a manipulé.
Oui, et ça, c'est fort. Ça m'a stimulé beaucoup, parce que tu vois l'objet... Tu vois le créateur, mais surtout, tu vois que l'objet, l'œuvre, en fait, une fois qu'elle est terminée, elle a sa vie propre.
Elle a sa vie.
Et le créateur est dans l'ombre parce que c'est l'objet nécessairement qu'on va regarder. C'est à lui qu'on va accorder de l'attention. Oui, l'artiste pour comprendre le cheminement, comprendre le point de vue, tout ça, mais c'est vraiment l'objet qui est important. Et tantôt, je reviens à ma sensualité, là, je suis encore stiquée là-dessus, mais c'est la lumière.
Oui.
Une lumière chaude, dorée par moments, rouge par d'autres moments, qui met vraiment l'accent sur l'intimité de ce moment-là, que je trouve vraiment saisissante, en fait. On se sent vraiment comme dans un petit sanctuaire de l'artiste et de son œuvre.
Oui, il y a comme un sanctuaire, mais il y a aussi, quand on s'approche très, très, très près de chacune des photos, on voit les petits détails, de parfois les hésitations du scanner, du numériseur.
Du numérisateur.
Et qui font toute une série de petits arcs-en-ciel dans la photo et qu'on ne voit pas de loin, mais on les voit de près.
Effectivement, mais il y a aussi un jeu, en fait, sur les textures. Et sur les motifs, tout à l'heure, je parlais des gants. Bon, les gants picotés, on voit la texture des gants de vaisselle aussi. Tu sais, il y a une œuvre, c'est comme un genre d'œuf ou quelque chose comme ça. Puis là, il y a de l'argent dessus qui brille dans la lumière. Il y a des aiguilles, etc. Ça, c'est vraiment intéressant.
Donc, c'est chez vous jusqu'au 4 octobre.
4 octobre, Gino Quentin.
Donc, tu as aimé les deux.
Oui, j'ai aimé les deux. Deux atmosphères complètement différentes.
Deux atmosphères. Puis, moi, j'aime bien l'art qui questionne, qui a un propos. Gino Quentin, c'est très, très esthétique, ce qu'il nous propose.
Oui, très esthétique, mais en même temps, il y a un propos sur l'art.
Oui.
En tant que telle, sur la nature de l'œuvre.
Sur la nature de l'œuvre.
Transformation.
Où est l'œuvre? Quelle est la vraie œuvre? Est-ce que l'œuvre, c'est le mouvement? Puis, effectivement. Puis, l'autre, qui, moi, évidemment, une œuvre engagée, ça me fait toujours.
Touche particulièrement ton cœur de syndicaliste.
Oui. Alors, merci beaucoup, Julie, pour cette belle chronique.
Ça me fait grand plaisir.
Et on va se revoir le mois prochain.
Comme à l'habitude.
Comme à l'habitude. Alors, on se quitte pour quelques instants avec Jocelyn Robert, tiré de Scory cette fois-ci. C'est un espèce de... Scory, c'est un disque qui regroupe... C'est pas un best-of, mais ce sont des remakes de pièces qu'il a déjà réalisées, mais qu'il a remixées, qu'il a retravaillées. Alors, celle que je vous propose s'appelle Interland. Ça a été réalisé, ça, lors d'une traversée du Canada à vélo avec Diane Landry. Et vous allez entendre, c'est une œuvre qui dure 10 minutes. On a un petit extrait. Le voici.
peut-être... Il n'est pas question. Le temps, tu Elle aussi. J'ai vraiment.
Et tu peux être musicale, elle me regarde. We'll be right back.
Alors, c'était Jocelyn Robert. On est dans un univers où on se promène comme ça. Il y a des bouts où ce sont juste des bruits de klaxons, d'autres bouts. On était comme au coin du feu ici. Donc, c'est une œuvre qui dure 10 minutes et qui est tirée de Scorry, comme je vous disais. Cette espèce de making of, de best of des œuvres de Jocelyn Robert. Parlant de Jocelyn Robert, bon, parlons d'Avatar. Nous avons au bout du fil Myriam Lambert, qui est responsable des communications chez Avatar. Bonjour, Myriam.
Bonjour. Et non, des commissions, effectivement.
Faut, j'imagine, moi, pour avoir travaillé en communication, je sais qu'il faut souvent faire des commissions aussi. On est appelé à tout faire. Myriam, d'abord, merci. Dès la première émission, avoir quelqu'un de chez Avatar pour remercier de cette belle initiative de nous fournir au-delà d'une trentaine de CD qui vont nous permettre à chaque semaine de présenter un artiste ou une artiste dans le domaine de l'art audio. C'était un domaine qu'on ne touchait pas beaucoup, qu'on abordait peu. Mais là, on va pouvoir à chaque semaine donc présenter des artistes. Alors, je voulais d'abord vous dire merci chez Avatar.
Ah ben, ça fait vraiment plaisir. C'est justement fait pour être écouté. Donc, justement, si ça donne la possibilité de pouvoir le faire entendre à encore plus de monde, ça nous fait plaisir.
C'est certain que malheureusement, on peut pas rendre justice à toutes les œuvres. Tu sais, je prends l'exemple de l'œuvre qu'on vient de faire jouer, d'un extrait de l'œuvre de Jocelyn Robert.
Oui.
On ne peut pas consacrer 10 minutes. Raymond Poirier, qui fait la mise en onde ce matin, aujourd'hui, il nous disait, ça se peut pas qu'il y ait une œuvre de 10 minutes qui joue
pendant
ton émission, alors que vous avez tellement de choses à dire. Mais j'ai aussi la contrainte de la radio. Je me suis rendu compte que je pouvais pas faire jouer n'importe quoi, dans le sens, non pas au plan esthétique, mais il faut que ce soit quand même audible. C'est-à-dire, il y a certaines œuvres qui sont tellement fines en nuances que ça prend absolument un écouteur, un casque d'écoute pour pouvoir les apprécier.
Tout à fait, oui. Effectivement, ça arrive assez régulièrement, même des fois en surround.
Oui.
Ou que ce soit avec des écouteurs en surround ou vraiment des œuvres qui sont faites expressément pour un type de je sais pas comment dire, mais
de casque d'écoute, en fait. Il y a même un de vos disques qui s'appelle Musique pour casque d'écoute.
Oui, exact. Donc c'est ça. Chacun a sa priorité, sa façon d'être écouté, finalement.
Mm-hmm. Mais chez Avatar, vous faites pas juste de prêter des disques, vous avez également de la production.
Oui.
Chez Avatar, lorsque vous produisez des disques, les disques sont produits sur une étiquette qui s'intitule OHM, mais non pas OHM, là,
oui.
Et non pas Avatar.
Oui, exact.
Il y a donc une maison d'édition à l'intérieur d'Avatar.
En fait, Avatar est constitué de 3 volets. Il y a Avatar, Association de création et de diffusion en art audio et électronique, où est-ce qu'il y a plus tout ce qui est création, tout ce qui est... c'est certain qu'on fait de la diffusion, mais quand on fait de la diffusion, c'est plus dans des moments ponctuels comme le mois multi ou pendant la manif ou Antenna qui s'en vient prochainement. Puis, il y a aussi justement la création, on accueille des artistes en résidence. Mais on a aussi une maison d'édition qui s'appelle Home Édition, qui justement édite plusieurs publications, que ce soit des CD, des DVD ou des catalogues. Puis il y a aussi une maison de distribution. Donc l'étiquette de distribution s'appelle Vacuum.
Mm-hmm.
Et ça c'est vraiment, c'est pas seulement que Home Édition, c'est aussi d'autres éditeurs surtout du Canada. Là, on tente peut-être aller plus vers l'international, mais pour l'instant, c'est surtout du Canada. On a en tout, je crois, c'est 67 publications en art audio ou électronique ou les deux ensemble.
Parce qu'il faut dire aux auditeurs que Avatar s'est reconnu au plan international beaucoup plus qu'au Québec. Jocelyn Robert me racontait une fois qu'il est allé en Allemagne, il s'est présenté, bon, Jocelyn Robert du Québec, et la première question qu'il s'est fait poser, c'est « Est-ce que vous connaissez Avatar? »
Oui. Alors... Et oui. Non, c'est vrai qu'on est plus connu, mais ben on est quand même beaucoup connu à l'international, tout simplement parce que quand je dis qu'on fait des événements ponctuels de diffusion, oui, on le fait à Québec. Là, j'ai mentionné les événements de Québec. Mm-hmm. On est allé à Berlin, on est allé à Varut, on est allé à plusieurs endroits justement pour diffuser. On part avec des artistes et on va diffuser leurs œuvres là-bas, que ce soit dans le cadre de performances, de festivals. Mm-hmm. pas dans le cadre de performance, mais plutôt moyen de fusion, ouais. De performance, installation. Mm-hmm. Ça peut être très vaste, souvent dans des festivals en particulier qui nous intéressent.
Mm-hmm. Et là, vous avez, en parlant de l'extérieur, on n'ira pas à l'étranger, on va aller à l'extérieur de Québec. Il y a un événement ces temps-ci qui s'appelle Excavation Sonore.
Ouais, ben en fait c'est en collaboration avec Séquence.
OK, qui est à Chicoutimi.
Pardon?
Qui est au Saguenay.
Oui, qui était au Saguenay à Chicoutimi. L'événement c'est un programme
Saguenay,
spécial
en fait.
de diffusion de Séquence, c'est Fréquence audio, vidéo et sonore.
Mm-hmm.
Qui a lieu du 3 septembre au 2 octobre et il y a plusieurs événements dans ce programme-là. Toutefois, nous, on a décidé de proposer plusieurs œuvres, plusieurs excavations sonores, plusieurs œuvres, pardon.
Mm-hmm.
Peut-être expliquer c'est quoi une excavation sonore à la base.
C'est un trou dans le son.
Pardon?
C'est un trou dans le son, c'est un creusage dans le son.
Ouais, ça peut être ça.
Ça peut être le sillon du disque.
Nous, comment on le voit, c'est un laboratoire de création et d'expérimentation d'art audio. Donc, il y a des artistes qui viennent créer des œuvres audio ici, que ce soit des artistes de la relève ou des artistes établis de Québec, du Québec ou de l'international. C'est vraiment de toutes sortes qui viennent créer ici des œuvres audio et par la suite, on les diffuse, mais à l'habitude, sur Internet. Là, on a proposé à Séquence de les diffuser sur une, justement, à la radio. Et par la suite, aussi, on peut les entendre directement mm-hmm. à Séquence.
Okay.
Donc, il va y avoir, présentement, je vais vous dire le programme.
Il y a Bruno Bouchard et Simon Elmalek, qui est un ancien de CKRL aussi.
Oui, mais en fait, ça, c'est pas à Séquence.
Okay.
Ça, c'est directement sur notre site Internet.
Okay.
On a fait un lancement le 1er septembre parce que à Avatar, surtout pendant le mois de septembre, il y a beaucoup, beaucoup d'événements qui se passent. Et là, le lancement de Sac de Nœuds de Simon Elmalek. Elmalek et Bruno Bouchard a été lancé. C'est tout particulier. C'est en fait, ils ont fait une œuvre presque engagée, je dirais. Mmh. Ils se promènent d'un bar et de l'autre avec comment dire, c'est vraiment une excavation ils ont utilisé un dispositif qui est une lame d'acier qui
oui.
s'est utilisée pour créer le son, mais en même temps on entend des sons de d'artistes connus comme d'artistes connus qui sont
Myriam,
pardon?
On va devoir se laisser.
Oh non, pas déjà.
Oui,
ça vaut la peine d'aller sur www.lenomdelachose.org / excavation sonore au singulier. Donc, vous pourrez aller voir tout ça. Vous allez avoir toutes les excavations sonores qui passent aussi à 5 ans.
OK. Ben merci beaucoup, Myriam Lambert. C'est Myriam Lambert qui est directrice des communications ou responsable des communications chez Avatar.
Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup.
Bye-bye.
Au revoir.
Écoutez, on est rendu presque à la fin de l'émission, là, que Raymond vient de me dire. Alors, écoutez, grosse fin de semaine, il y a plein de vernissages. Jeudi, ça se passe à la Galerie des arts visuels et à la Chambre blanche. Vendredi, l'œil de poisson, notamment particulièrement Diane Landry, à la bande vidéo chez Engram, au lieu, chez Morgan Bridge. Samedi, chez La Certe, samedi après-midi, et dimanche, chez Louise Carrier et à la Nef et en Encan. Donc, les arts visuels sont extrêmement prolifiques à Québec et donc il suffit de continuer de reprendre cette belle habitude d'aller voir tout ça. Alors merci beaucoup, merci à Raymond Poirier pour la mise en onde aujourd'hui, merci à Claude Chevalot d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous aurons notamment Jacques Sylvain, Raphaël Sottolicchio, le premier coup de boule de Claude Chevalot et la première chronique de Pierre Girard. Demeurez à CKRL. La prochaine émission, je crois que c'est Tania Beaumont ou sa remplaçante. Alain Lacombe, c'est Alain Lacombe. Merci Raymond. Et tout de suite après, c'est le lancement de la saison radiophonique de CKRL au Sacrilège avec Tania Beaumont et Québec, c'est pas un village. Merci. On se laisse sur Jocelyn Robert. À la semaine prochaine. Bye bye.